bienvenue dans Reste in Pellicule, le podcast des Time Slips qui réanime les films qui se sont fait démolir, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on décide ensemble si on décide de les sauver ou non. Et vous avez vu le titre aujourd'hui, le film qu'on réanime, c'est Southland Tales.
Je ne comprends pas. Je n'ai jamais envisagé de me suicider. Je suis un beau gosse. Et les beaux gosses ne se suicident pas.
Pour en parler, moi c'est J-Boîte et petit tour de table des gens réunis aujourd'hui. Il a été le premier à me maudire d'avoir choisi ce film, mais dans ce cas, il ne fallait pas être là à chaque épisode. C'est Grégoire.
Coucou.
Greg, Southland Tales, en un mot, ça t'évoque quoi?
Pourquoi? Parce que...
C'est bon, c'est la fin de l'épisode, merci à tous.
Grâce à des changements de planning d'enregistrement, elle a finalement pu se joindre à nous, mais peut-être qu'elle regrette un petit peu maintenant, c'est Manon.
Oui, bonjour, je regrette.
Alors Manon, si tu devais résumer le film en un seul mot.
À l'aide, à L.E.D.
C'est Motus.
J'allais dire, est-ce qu'on peut introduire un petit Motus après que
Vu les soirées techno-fanfare underground auxquelles il participe, je commence à le soupçonner d'être un néo-marxiste. Il a des poches sous les yeux et un rire fabuleux. Avec nous aujourd'hui, c'est Galien.
Salut.
Galien, en un seul mot, Southland Tales.
Jésus.
Jésus.
Jésus, oui.
Le film est aussi chaotique que la musique des groupes de prog français des années 70 dont il spamme mes DM et il adore ça, c'est Cortès.
Salut tout le monde. Mon dieu.
Alors, Cortès, explique toute l'intrigue en un seul mot.
Pouvoir.
Bien joué. Et sinon, les amis, quel est votre rapport avec Southland Tales? Est-ce que vous l'aviez déjà vu avant d'enregistrer ce podcast? Ou est-ce que vous aviez déjà vu un film de Richard Kelly? Grégoire, vas-y.
Alors, pour être bien sûr, on est d'accord, Richard Kelly, c'est celui qui a fait Donnie Darko, c'est ça?
Tout à fait. Il a réalisé trois films, Donnie Darko, Southland Tales, puis The Box en 2008.
Ok. Alors moi, j'avais effectivement vu Donnie Darko où j'avais rien bité, mais j'étais sorti de l'en mode « c'est trop bien ». Et du coup, je me suis dit, bon, je vais retourner voir un film que je vais rien biter et que je vais trouver trop bien. Alors, j'ai rien biter. Donc, je l'ai découvert effectivement, en l'occurrence, pour le podcast, comme d'habitude. Et pourquoi?
Et bien, toujours parce que, Galien, comment as-tu découvert ce film?
Et bien, je l'ai découvert il y a deux semaines, quelque chose comme ça. On l'a regardé chez moi et j'ai rien compris. J'ai été atterré. Qu'est-ce qui se passe? À l'aide!
Ah, vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Manon, comment tu as découvert ce film?
Eh ben, je l'ai découvert quand Cortès m'a envoyé un vocal disant « C'est quoi ce merdier? Regarde ce film !» Du coup, j'ai regardé ce film et maintenant, je suis là, quoi.
Et ben, voilà.
Et j'avais vu Donnie Darko qui est mieux.
Spoiler.
Ah, on verra, mais oui, il est globalement mieux accepté. Cortès.
Je l'ai découvert pour le podcast. J'avais zéro news quand j'ai lancé le film. C'est après quand j'ai pris des notes où je me suis renseigné. Effectivement, Richard Kelly. Et j'étais là, purée, Donnie Darko. Mais en plus, je te hais un petit peu, JB, parce que non seulement déjà le film, mais surtout là, il y a une semaine avant, j'ai regardé mon premier David Lynch. J'ai regardé Mulholland Drive. Et j'étais là en mode yes, encore un film où je vais rien comprendre, on va passer un super moment. Et une semaine après, David Lynch est mort. Je me sens un peu responsable, j'ai vraiment pas fait exprès.
Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des parallèles, enfin un qui est très visible.
Entre Richard Kelly et David Lynch.
Or pas, ouais. Oui, mais aussi Mulholland Drive très spécifiquement et Southland Tales, mais on y reviendra par rapport à une scène en particulier.
Ça marche.
Il y a un truc que je voulais dire, c'est que quand même, j'ai regardé la tête du film, j'ai dit putain, il y a Dwayne Johnson, je me suis dit trop bien, j'adore les films de Dwayne Johnson, c'est toujours con et on se marre bien.
Sauf celui-là.
Et bah lui, c'est con et on se marre pas parce qu'on comprend pas.
Ça, c'est. Bon, j'ai des avis.
Alors, ouais. Bon, pour ma part, j'ai découvert le film il y a fort longtemps dans mon précédent podcast, en fait. C'est mon partenaire de toujours, Maël, bisous, qui m'avait fait découvrir ce film que je pensais être un énorme nanar et par curiosité plus tard suite à ses chaleureuses recommandations je l'ai regardé Et je me suis dit, tiens, pour Rest in Pellicule, en vrai, ce serait drôle. J'ai bien envie de les torturer pour ce premier épisode où je présente.
En fait, on est d'accord pour dire que t'as subi, donc tu t'es dit... Il n'y a pas de raison que je sois le seul à
subir. Non, c'est vraiment, on est tous punis. Ouais, parce qu'il y a un book il y a 8 ans qui lui a dit « Eh, regarde ce film !»
Ouais, d'accord, c'est ça. Non, c'est vraiment une balle perdue.
Elle
quoi.
Est très étrange, cette séance BDSM. Hein, pour l'instant, je sais pas trop. C'est quoi le safe word?
Encore une fois, Léa n'est pas là, putain.
Safe word.
Et on peut quand même applaudir le fait que le Boog, en 8 ans, il a réussi à assassiner je sais pas combien de personnes avec un film, quoi. En parlant juste à JB.
C'est ça. Ah oui, non, mais c'est quelque chose d'absolument fantastique. Mais... qu'est-ce que c'est que Southland Tales?
On se pose encore la question.
On va vous mettre un peu de contexte et aussi on va essayer d'expliquer pourquoi ça s'est crashé. Parce que le film s'est bien, bien, bien crashé.
Pour ça, j'ai une théorie si tu veux.
Alors, Southland Tales, c'est un film diffusé pour la première fois au Festival de Cannes en 2006 et qui est sorti officiellement aux USA en 2007. C'est un scénario original qui a été écrit et réalisé par Richard Kelly, qui à cette époque, à tout juste 31 ans, était au sommet de sa hype après le phénomène culte qu'avait été Donnie Darko. Au casting, pas mal de gros noms de cette période. Dwayne Johnson, qui en était encore à ses débuts au cinéma et qui est crédité pour la première fois dans ce film par son vrai nom et pas comme The Rock.
Propre.
Justin Timberlake, énorme pop star à l'époque, qui lui aussi était à ses débuts sur le grand écran. Sean William Scott, que vous connaissez peut-être pour son rôle de Stifler dans American Pie ou ses rôles dans Destination Finale ou « Eh mec, elle est où ma caisse ?»
Incroyable ce film.
Oui,
et enfin, et pas des moindres, Sarah Michelle Gellar, que l'on connaît bien pour Buffy contre les vampires, les adaptations de Scooby-Doo 1 et 2, Scream 2, Souviens-toi l'été dernier, et j'en passe.
J'en ai vu aucun.
Même pas Scooby-Doo ?
Si.
Si, mais j'avais 7 ans.
Quel film culte.
Ah, ils sont trop cool en vrai.
Film, ouais, faut que je les rematche.
Très très bonnes adaptations, Scooby-Doo. Southland Tales, c'est une comédie satirique sous forme de film d'anticipation SF que Kelly avait commencé à écrire avant les années 2000, comme film qui devait critiquer l'industrie hollywoodienne, mais qui a grandement été modifié suite au bide, puis succès, de Donnie Darko, et surtout suite aux attentats du 11 septembre pour devenir cette espèce de récit chaotique qui déroute plus d'un spectateur non averti. Vous allez voir, ou plutôt entendre, le récit de Southland Tales est énorme, peut-être un peu trop énorme, à tel point que 3 romans graphiques appelés Southland Tales The Prequel Saga ont été publiés avant sa sortie aux USA en 2007, soit après la sortie cannoise.
Sans déconner ?
Non, tout à fait.
Ok.
Et ces comics servent à expliquer le contexte du film. Le but de Richard Kelly, à ce moment-là, c'était de créer une sorte d'énorme œuvre cross-média. C'est rigolo quand on sait que 2 ans plus tard, il y a le premier Iron Man qui sort. Southland Tales est un projet hors norme avec un tout petit budget de 17 millions de dollars. Mais ses équipes et acteurs sont enthousiastes et croient au projet, ou plutôt croient en Richard Kelly parce que personne ne bite rien du film. Mais à la projection à Cannes en 2006, c'est la douche froide. Le film se fait démonter par les critiques. En voici quelques-unes. Trop bordélique, trop ambitieux, trop geek. Et je me rappelle que les sous-titres légèrement décalés à la projection de presse n'aidaient pas à la compréhension du monstre. Télérama.
Ah, mais c'est un sabotage, ça.
Ils ont mis les autres sous-titres.
France Culture a dit « On ne s'étendra pas sur la pochade futuriste et brouillonne sur l'Amérique de l'après 11 septembre et de la guerre en Irak qu'est Southland Tales de Richard Kelly. » Et un critique anglais dont j'ai oublié le nom a juste dit cette phrase « Le pire film jamais sélectionné pour la Palme d'Or. »
Rien que ça.
Bref, une sacrée douche froide, ce qui fait que Southland Tales repartira en salle de montage pour ne finalement sortir aux USA que fin 2007, puis un peu plus tard au Royaume-Uni. Mais là encore, c'est le four total. Le film ne sort que dans très peu de salles et ne récoltera que 374 743 dollars à l'échelle mondiale le temps de son exploitation.
Ah ouais.
On peut mettre le bruitage des Roblox.
Ah ouais, là, c'est
le...
Ah oui, c'est très bas, je pensais pas que c'était aussi bas.
Ouais, non, c'est assez désastreux. En France, le film ne sortira directement qu'en DVD et Blu-ray en 2009 dans sa version cinéma, qui est celle que nous avons regardée pour cet épisode. En 2021, le film est ressorti en Blu-ray avec le montage du film tel qu'il avait été projeté à Cannes, avec une intro qui est assez différente, qui donne beaucoup plus de contexte, et ça rajoute, et quelques scènes en plus qui rajoutent environ 20-24 minutes de film.
C'est bien, le film n'était pas long déjà, donc c'est bien.
Ouais, et puis moi je trouve que déjà l'intro donne beaucoup trop d'informations dès le début.
Oui, mais justement, en fait, la version cannoise, alors je ne l'ai pas vu la version cannoise, mais j'ai lu pas mal d'articles dessus, apparemment, au niveau de l'intrigue, elle est plus digeste.
Ok,
ça me surtout va. Pour l'intro. Mais bon, la version cannoise, on en parlera, mais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas.
Ouais.
Pour conclure, aujourd'hui sur Rotten Tomatoes, le film est à 41%, 5,3 sur 10 sur IMDb et 2,2 sur 5 sur Allociné. Malgré cela, le film a son petit culte de fans qui le défend et recommande avec ardeur depuis.
Est-ce qu'il y en a un dans cette table? Et ce fan, est-ce qu'il
est avec nous?
Je crois que je le suis devenu en préparant cet épisode. Richard Kelly, quant à lui, juge le film sorti comme incomplet. Et même si ça fait longtemps qu'il n'a rien sorti, il évoque encore souvent le fait de faire une suite ou un remontage avec de nouvelles scènes qui seraient tournées.
Trop bien!
Donc peut-être qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Southland Tales.
Oh, pitié, non.
Et vous n'avez pas fini d'en entendre parler d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va tenter de vous raconter le film. Alors, une Los Angeles en proie au chaos, des voitures qui baisent et des bocoses déterminées. Southland Tales, c'est parti. Le film s'ouvre sur une séquence en fan footage qui se passe en 2005 avec une sorte de fête de famille, tout ce qu'il y a des plus classiques aux États-Unis. Mais, boum ! Bombe nucléaire sur le Texas. Et la voix de Pilot Abilene, personnage joué par Justin Timberlake et narrateur de cette histoire, prend le relais. La majeure partie de l'intro du film est entrecoupée d'images d'ordinateur, de télévision, un peu comme dans Starship Troopers, si vous avez la référence, et aussi de dessins qui sont issus du fameux roman graphique. Et oui,
sortira l'année prochaine, l'année d'après.
Bah non, qui ont été.
Ah, qui s'était déjà sorti.
Là, c'est les trucs qui ont été rajoutés dans le montage.
Ah, ouais. Malin.
Et avec une voix off qui raconte les événements de 2005 à 2008 où se déroule le présent du film. Tout cela est entrecoupé de séquences tournées qui introduisent les différents personnages. Ça va être dense, donc accrochez-vous.
Il y aura beaucoup, beaucoup de personnages.
Une bombe atomique a été lâchée sur les USA. Le pays est en crise, c'est leur Hiroshima. Une mobilisation générale pour l'armée est décrétée et c'est le début de la troisième guerre mondiale entre les USA, l'Irak, l'Iran et l'Afghanistan, la Corée du Nord et la Syrie. Cette guerre entraîne une pénurie de pétrole et une course au carburant alternatif. Les Américains flippent à mort du terrorisme et votent majoritairement républicain pour plus de sécurité. C'est marrant, c'est très actuel. Ce qui fait que chaque État installe des frontières que l'on ne peut traverser qu'avec un visa. Évidemment, des groupes extrémistes opposés à ce regain d'autorité émergent. Et le plus important d'entre eux est le groupe des néo-marxistes. En parallèle de tout ça, c'est la guerre électorale pour les élections présidentielles de 2008. Et là, on zoome sur la Californie, le Southlands, car les républicains seraient en passe de faire passer l'État dans leur camp pour la première fois depuis 1988. Fun fact, dans notre monde réel, la dernière personne qui a gagné les présidentielles en Californie, c'était Bush père en 88.
Une personne de droite, tu veux dire?
J'ai dit quoi?
Tu dis la dernière personne à avoir remporté des élections tout court.
Ah, avoir remporté, oui. Avoir...
Mais du coup, le dernier républicain... Ouais.
Le dernier républicain à avoir remporté les élections.
Excuse-moi.
Non, t'inquiète. Le 26 juin 2008, l'acteur boxeur Santa Rosa...
Oh, c'est un chien boxeur. Oh non. C'est comme, comme si le film n'était pas assez bordélique comme ça. Il va y avoir des petits des bruits d'enclumes, des punch, bon...
Alors, il n'y en a qu'un, mais je l'aime
putain.
Beaucoup.
Ah putain, vivement pour l'actrice de cul, hein. Voilà.
Non, excuse-moi.
Super, hein.
C'était spoil.
L'acteur boxeur Santa Rosa, personnage joué par Dwayne Johnson et gendre du sénateur républicain de Californie, disparaît mystérieusement. Et réapparaît peu de temps après dans le désert du Nevada, totalement amnésique, sans que l'on sache trop pourquoi. on quitte enfin cette séquence, entre guillemets, d'animation, sur des images du paysage de Los Angeles. On voit une énorme structure au milieu de la mer, boxeur Santaros qui se réveille sur une plage en entendant les bruits d'une explosion, pilote Abilen, le narrateur, qui est un vétéran de la guerre en Irak et dont on apprend qu'il a été blessé par un allié. Il lit la Bible, probablement un passage de l'Apocalypse, perché sur une tour avec un fusil sniper posé. Il rigole et dit qu'il va nous raconter l'histoire de boxeur Santaros dans le Southland. Et il prononce la phrase suivante qui prédit toute l'intrigue du film. Voici comment s'achève le monde. Voici comment s'achève le monde. Voici comment s'achève le monde. Pas dans un gênement, mais dans une explosion. Oh. Plein de voix, de radio, de télé, d'émissions et d'images se mélangent et le titre apparaît enfin, Southland Tales. Ça vous a paru long et dense ? On est à 7 minutes du film.
J'allais le dire. J'allais vraiment dire un truc comme ça.
Le film dure 2h24, je le rappelle.
Non, surtout, la V1 durait 2h45.
La version canoise.
Oui. La version canoise dure plus de 2h40, ouais. Promis, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite. Le film s'ouvre donc sur son chapitre 4 et nous explique qu'une organisation gouvernementale appelée US IDENT surveille et contrôle le cyberespace pour lutter contre le terrorisme. Celle-ci est dirigée par la femme du sénateur. On voit ensuite Boxer Santaros et son superbe tatouage de Jésus. Celui-ci vit caché depuis son amnésie avec Krista Now, personnage joué par Sarah Michelle Gellar, une ex-actrice porno. Et ensemble, ils ont écrit un scénario qui prédirait la fin du monde qui s'appelle Le Pouvoir, The Power. Le narrateur nous explique ensuite que l'Amérique est à court d'essence, mais qu'un scientifique appelé le Baron Westphalen, le Baron, est arrivé au Southland avec son équipe de scientifiques au look très futuriste et a construit une usine qui utilise le mouvement des marées pour créer une énergie hydroélectrique nouvelle et infinie appelée le karma fluide. Cette énergie permettant d'alimenter n'importe quoi à distance. Pratique. On arrive dans la maison de Fortunio, un trafiquant de drogue, slash Mac, riche, qui héberge Krista et Boxer. On apprend que Krista présente un talk show avec d'autres actrices pornographiques pour débattre de sujets sociaux, de la guerre, de la téléportation quantique et de porno. Fortunio se fout de sa gueule et elle défend ses convictions de féministe combattant le puritanisme américain. Elle discute ensuite dans un restaurant avec Cindy, une réalisatrice de films pornographiques, et elle lui révèle qu'elle se tape une pointure. Ce qui permet d'enchaîner avec le fait que US IDENT et le gouvernement sont à cran pour retrouver Boxer Santaros, de peur que les néo-marxistes se servent de lui pour perturber l'élection qui approche. Rappelons que la chef de US IDENT est la belle-mère de Boxer. Ils savent qu'il est en Californie, mais ils ne savent pas où il est caché. Ensuite, on enchaîne et on découvre l'un des bastions des néo-marxistes qui savent où est caché Boxer et veulent se servir de ces informations pour mettre le plan en marche. Précisément, ils veulent se servir du fait qu'il a une relation avec Christine Now, ancienne actrice pornographique, alors qu'il est marié à une autre femme. Suite à cela...
Ça va être notre épisode le plus long, mais
oui, oui. Je suis en train de comprendre des choses. Ouais. Ouais.
Moi, je suis en train de comprendre des choses, il y a des choses que je décomprends.
J'ai envie de mettre la musique, c'est en fait, des bizarre. Feux de l'amour. Genre, et il apprend que c'était sa belle-mère, la méchante qui avait écrasé son fils.
Et moi, c'est aussi un truc que j'ai vraiment... Tu passes d'enjeux géopolitiques mondiaux à la vie d'une actrice porno. Eh ben, très bien.
Qui veut vraiment lancer son site, mais, tu vois. Genre.
Et puis, elle et fait les meilleures pipes.
C'est son ami, c'est pas elle, c'est pas Christina, c'est sa pote.
Mais elle a tourné dans un film qui s'appelle Les Pompeuses 2, je crois, un truc.
Oui. Oui. Alors, petit détail pour les auditeurs, on a tous regardé le film en VF, je crois.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est rare.
On en parlera, je pense, du doublage.
Et d'ailleurs, très rapidement, je nous rappelais que la voix de Justin Timberlake en VF, c'est celle de Emmanuel Curtil.
Oui.
Emmanuel Curtil, la voix donc de Jim Carrey. Donc moi, j'avais The Mask qui parlait de la Bible pendant tout le film dans ma tête. C'était horrible.
C'était génial, je veux dire.
La VF sauve le film. Elle sauve le film.
Ils auraient pas parlé de la Bible, j'aurais préféré. Ouais, mais bon, vraiment, bref, ça, c'est un délire.
Vraiment, c'est la VF, on en parlera, je pense.
Suite à cette découverte du bastion des néo-marxistes, on rencontre Christophe Lambert, oui, parce que Christophe Lambert joue dans ce film un rôle très mineur, mais il est là.
Je peux.
Oui. Oh, tu le fais vachement
bien. Ça, tu le fais mieux que moi.
Mais attends, il joue qui?
Christophe
le
Lambert.
De flingue dans sa camionnette de glace.
Ouais, c'est lui.
Ah putain, c'est Christophe Lambert.
Ouais, en vrai, tu vois pas trop sa gueule les 20 premières minutes où il apparaît. Mais
Après, tu vois pas sa gueule pendant. Enfin, vraiment, il fait au total 10 minutes de film sur les 2h20, je pense.
C'est vrai,
moins que ça, il apparaît dans 2 séquences.
Ouais, 2-3 séquences.
Donc Christophe Lambert, qui est un vendeur d'armes dans un camion à glace et qui, dans cette scène, vend un pistolet avec des balles à blanc à une néo-marxiste. Sauf que celle-ci veut lui payer par chèque, lui, il refuse et du coup, elle lui pète la gueule, mais genre bien, bien, bien vénère.
Ah, elle est loin, Connor McCloud.
Alors, c'est pas il refuse,
McCloud,
c'est vraiment il insulte sa mère. Oui. Genre, c'est violent.
Est-ce qu'on peut dire que c'est ultra cohérent que le vendeur d'armes soit dans un camion de glace parce que son but, c'est de refroidir des gens?
Bravo,
oh.
Bravo.
Ta 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 ta.
Et bah, tu sais quoi,
ça me laisse sans voix.
Je suis sûr que Richard Kelly là, imagine tous les scénarios possibles de ce truc, mais il n'a pas pensé à ça.
Ouais, non, là, il y a que moi, là, vraiment.
Donc, cette néo-marxiste, appelée Zora, merci pour la recherche, ou qu'on pourra appeler aussi la meuf au dread, elle rentre dans son QG où elle retrouve ses partenaires et on apprend que ceux-ci se servent d'un homme appelé Ronald, qui est joué par Sean William Scott, qui est un gars mutique, complètement paumé, déprimé, qui serait amnésique depuis qu'il a été dans le désert. Clin d'œil, clin d'œil.
Tiens, 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 est-ce qu'il a été dans le désert depuis bien trop longtemps?
Oh. Celui-ci a pour mission de se faire passer pour son frère jumeau, Roland. Alors attention à ne pas confondre Ronald et Roland.
Il met vraiment les regards noirs qu'on te lance, tu n'as pas idée.
Je vous regarde pas, je vous ignore.
Il nous dit ça.
Que les néo-marxistes détiennent en otage et qui est joué par le même acteur qui apparemment serait un flic raciste.
Oui.
Et
d'ailleurs, on peut parler du coup flic, de quoi. Cette scène littéralement surréaliste où son reflet dans le miroir est décalé par rapport à ses gestes.
Oui.
Et on n'en parlera plus jamais dans le reste du film.
Oui, mais il y a une explication à cela.
Ta grosse gueule.
Eh ouais. Et du coup, Ronald est envoyé chez Fortunio pour prendre contact avec Boxer Santaros.
Le flic arrive donc chez Fortunio. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris son nom, moi. Comment tu dis Fortunio?
Fortunio.
Ah, moi, je l'appelais Fortunio tout le film.
J'ai regardé sur internet. Oui, mais Fortunio, c'est très bien.
Fortunio, le banquier.
Le banquier, bah, il a de la thune en plus. Bon, bref. Il arrive, il se présente. Fortunio a l'air de le connaître. Lui, non, mais il est du père, quoi. Mais après, c'est la définition du personnage tout le film. Hein. Pour
mais
moi, il est du père.
C'est parce qu'il pense qu'il est. Il est Roland.
Oui, il se présente en tant que Roland et pas en tant que Ronald. Donc, Boxer. Lui raconte son scénario de son prochain film, lui disant que globalement, il aimerait patrouiller avec lui pour voir un peu ce que c'est que le métier de flic.
Vu que c'est boxeur et qu'il patrouille, est-ce qu'on peut dire que c'est la patte patrouille?
Je voulais la faire.
Le scénario qu'il raconte est à moitié ce qui arrive à Roland actuellement, un genre de délire what the fuck, et perso, moi, je me demande s'il n'aurait pas préféré voir Le Pouvoir que Thousand Tales.
Bah, techniquement, tu l'as vu,
j'ai pris 2h30 de film pour le comprendre.
En fait, le scénario donc, du film Le Pouvoir, écrit par Krista et Boxer, parle de voyage dans le temps, du fait que la circulation des océans est légèrement décalée, ce qui provoque...
De 0,0009 secondes.
C'est génial. Et donc, ça crée un problème au niveau du comportement des gens, des animaux, et que ça serait, en gros, bientôt la fin du monde, et que le personnage, donc, de Boxer, joue un flic, et qu'il connaît, en gros, il est en sorte de messie, son personnage est en sorte de messie, qui connaît la vérité, et donc, du coup, qui a un rapport avec les voyages dans le temps, et ça va, en fait, servir pour le scénario du film Southland Tales. On suit, on s'accroche, très bien.
Eh bien, figurez-vous qu'il y a une explication parfaitement cohérente, si vous avez lu les comics.
Non, j'en ai que
mais
personne
j'adore faire mes devoirs avant de regarder un film.
Parce
j'adore ça.
En vrai, la vraie personne qui a écrit le scénario, c'est pas tant Boxer, c'est surtout Krista. Parce que dans les comics, on apprend que Krista est un peu médium et qu'elle peut un peu prédire l'avenir.
Putain, oui, c'est vrai. Juste niquez-vous, en fait.
Voilà, non mais...
De toute façon, moi, par principe, un film qui dit « Oui, alors en fait, pour comprendre, faut que t'aies lu 3 bouquins avant, bah va te faire foutre, en fait. »
Ah oui, ouais. Non, mais moi, quand j'ai appris ça, parce que j'ai pas lu les comics, j'ai lu ça dans un article, et là, j'ai vraiment fait ça, j'ai fait « Oh, Richard, je te déteste. »
La patrouille commence avec Boxer et des questions très cheloues. Je me souviens pas exactement des questions, mais globalement, oh non, juste C'était vraiment très intrusif.
Bah, il lui demande qu'est-ce que ça fait d'être flic, qu'est-ce que tu ressens quand tu conduis, et en fait, lui commence donc le flic dit ce que ça fait d'être flic, et en fait, il lui répond surtout que non, on est flic surtout pour buter des noirs. Et je dirais noir parce que lui il dit un autre mot.
Qu'on ne dira pas,
et que ça fait une semaine qu'il n'est pas allé à la selle.
Aussi, oui, ouais, ça c'est très important. Je crois que j'y venais après, mais c'est très réel. Au passage, on recroise Justin Timberlake qui continue de lire la Bible. Et franchement, je comprends pas tous ces passages, mais vas-y.
Et d'ailleurs, son emplacement là où il est sur son espèce de petit bateau.
Il est paumé, mais il voit tout.
Il voit tout, mais surtout le truc se déplace. Enfin, il a pas l'air d'être au même endroit tout le temps.
Si, en fait, il est sur une baraque, une boutique qui est au milieu de la plage de Venice Beach.
Parce qu'on dirait que parfois qu'il est au milieu de la mer.
Oui,
ça doit dépendre des plans.
Parce qu'en fait, si la caméra est un peu haute, tu vois que la mer derrière lui.
Ça dépend des angles.
Et en gros, il est au milieu de cette baraque, donc sur la plage de Venice Beach, et en fait, il fait partie de militaires qui surveillent la zone payée par USAID.
C'est vraiment Baywatch, mais avec un gros flingue.
Mais c'est ça.
Pendant cette discussion, on rejoint les non-marxistes qui suivent la mission et qui écoutent globalement tout ce qui se dit. On trouve donc Dion et Dream, un couple qui est du coup en train de débattre de est-ce que tu crois que dans la Bible, il faut aller faire caca au moins une fois par jour, ou est-ce que c'est ok de pas y aller pendant une semaine? À ce moment-là, Kenny les rejoint. Kenny qui a réussi à infiltrer USAID, donc qui travaille globalement là-bas, et qui a quand même, on le découvre assez vite, un petit mouchard dans son col. Mais bon, pour l'instant, ça sert à rien. On est quand même en même temps introduit à Starla, la collègue de Kenny, qui est un peu chelou. Et voilà. Alors putain d'ailleurs, USAID, c'est quoi leur putain de veste en plastique transparente? Pourquoi?
Ça c'est fantastique.
Alors vas-y, explique-le moi et je m'énerverai après.
Alors la raison...
C'est dans quel comic ça encore, connard?
Il fallait lire quel livre
La raison, aucune idée, c'est juste bizarre.
Ah ouais d'accord, très bien, ça me va.
Ça fait futuriste.
Rien de ta mère.
C'est pour collecter leur sueur.
Pendant ce temps, les élections arrivent et les médias racontent que les néo-marxistes veulent trafiquer les élections grâce à un trafic de pouces humains. Voilà, j'ai abandonné.
Nous sommes quoi, 25 minutes de film?
Alors, peut-être que... Alors, c'est un truc... Je remonte loin dans mes souvenirs, mais je crois qu'aux États-Unis, quand tu votes, il faut que tu utilises ton pouce pour valider que c'est bien toi, enfin ton empreinte digitale. Mais je suis pas sûr. Je dis peut-être une énorme connerie.
Oui, il me semble qu'en fait, ils trafiquent les votes grâce au pouce qui coupe, justement. Et normalement, c'est pas censé marcher, d'ailleurs. Donc, c'est un peu...
C'est pas censé
parce
marcher.
Parce que les empreintes digitales sur les doigts morts, ça ne marche pas.
Et bon. C'est pas très néo-marxiste. Enfin, c'est pas...
C'est pas.
Oh putain!
Même
j'ai compris un truc! Oui! Non, c'est surtout, il découvre un truc alors que le mec il a poncé le film!
J'ai poncé le film et j'avoue que le truc des doigts c'est vraiment le truc que j'avais abandonné.
Même le film en quelque part l'a abandonné. Hein.
On
le mentionne très vite fait, mais c'est pas.
Alors moi ce que j'adore c'est qu'on le mentionne, mais on le voit très peu quand même.
Oui.
On le voit très peu.
En même temps, il y a tellement de choses.
Non, mais on voit très peu de mains avec un pouce en moins.
Oui, c'est vrai.
Bah c'est juste pour ça que je pensais à Kenny.
Mais j'avais même pas vu que Kenny avait.
Il a la main dans le bandage.
Mais c'est con parce qu'il est déjà néo-marxiste, il avait pas besoin de couper sa main.
Ok, on avance.
Ok, voilà, c'est ça. Au lieu de s'occuper de ça, le sénateur découvre que Boxer se tape Krista et que Gauche Profonde 2 a des fichiers compromettants de lui. Donc lui, il a un trafic de doigts humains dans sa région. Mais son beau-fils qui se tape une actrice porno, c'est quand même vraiment plus important. C'est là qu'on se rend compte que vraiment la politique, déjà depuis 2005, c'est juste de la putain de com. Ouais, j'en profite.
Non, après, c'est surtout que les Américains ont énormément de problèmes avec l'histoire de cul au sein de la politique.
Le puritanisme, etc.
Au même moment où ils découvrent que Gorge Profonde, les fichiers Gorge Profonde les appelle, comme c'est pratique, et ils leur demandent $1 million et un vote favorable à la proposition 69 de la part du sénateur. Et pourquoi lui demande $1 million, putain? Expliquez-moi. Et je sais que ça vient
après. Parce que l'argent, c'est bien.
Oui, c'est des néo-marxistes, normalement, c'est pas la question qu'ils doivent se poser, mais j'ai arrêté de me poser des questions sur le fait que c'est des néo-marxistes, à partir du moment où ils ont dit que c'était des libéraux, soit. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que la proposition 69?
Pour Krista, ce chiffre n'avait qu'une seule et unique signification.
Voilà. C'est vraiment comme ça que commence l'explication sur la proposition 69. Voilà. Globalement, c'est une proposition de loi visant à limiter la marge de manœuvre de USAID, présentée comme une institution tyrannique. Donc dans l'idée, si la loi passe, USAID aurait beaucoup moins de pouvoir et pourrait beaucoup moins contrôler la population. Donc on comprend pourquoi ils veulent que la loi passe pas, quoi.
Oui, du coup, elle aurait beaucoup plus de pouvoir si elle passe.
Voilà. Si elle passe pas, ils auraient beaucoup plus. Ils garderont le pouvoir actuel qu'ils ont déjà beaucoup trop.
Ah.
Et ça permettrait de limiter leur pouvoir.
Ah oui, c'est une.
Parce que là, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Pendant ce temps, on peut retourner à Dion et Dream, j'adore leur nom, putain, qui se préparent en mettant des prothèses pour mettre en scène leur propre mort, pour anéantir US Aident. Globalement, le plan, si j'ai bien compris, c'est de montrer grâce à Boxer qui filme la scène, qu'il y a des policiers racistes qui, grâce à US Aident, se permettent largement de tuer des personnes racisées. Et... sans déconner!
C'était... Oui, bah, il fallait le prouver. Après, on est en 2006, hein, les téléphones portables qui filment bien, un truc comme ça.
Je suis d'accord, mais moi, je trouve que 20 ans plus tard, franchement...
Non, non, rien n'a changé.
Tout a continué.
En pire. Parce que là, c'est une fiction.
Alors là, alors on enregistre, il y a moins d'une semaine, Elon Musk a fait un salut, voilà...
Un salut nazi, on peut le dire. Oui, c'est un salut nazi.
Il y a eu beaucoup de débats, mais je pense qu'autour de cette table, tout le monde est d'accord. Salut nazi.
Ah non. Oui, salut nazi.
Il a donné son cœur à la fin.
Ta grosse
ferme ta gueule. Oui, donc globalement, leur plan, moi je trouve qu'ils ont quand même vraiment fort parce que c'est vraiment un truc qui n'arriverait jamais dans la vraie vie qu'un policier tue des personnes racisées. Tata, donc pendant ce temps-là, Kenny, donc le book qui est toujours infiltré chez US Aident, qui est dans un des QG avec Roland, du coup. Mais elle a toujours son mouchard. Et jusqu'à maintenant, t'avais la boss du US Aiden qui l'écoutait, mais qui s'en battait un peu les couilles. Sauf que là, il dit du mal d'elle. Du coup, et elle donne le go des policiers pour aller le buter.
Qui s'appelle les USI Def, il me semble.
Non, USI Def, c'est le logiciel utilisé par les pirates pour pirater tous les trucs.
J'en ai plein le cul.
Non, il s'appelle les Oupou.
Oui, les Upu.
Les Upu.
UPU.
Ah oui,
c'est en fait, selon les grades de UPU, en gros, UPU1, c'est ceux qui mettent les contraventions.
C'est les municipaux.
UPU2, c'est les flics de terrain.
Les nationaux.
Voilà. Et UPU 3 et 4, c'est tu commences à être dans. Voilà. Et UPU 5, il n'y en a qu'une seule, c'est la directrice de US Aident.
D'accord.
Ils envoient, juste, il suffit de l'insulter pour qu'elle t'attaque, quoi. L'assaut est lancé, mais Kenny a le temps de réveiller Roland qui s'enfuit. Donc, on a donc un Roland en descente d'acide dans la nature, parce que clairement, à ce moment-là, il saute de l'immeuble, il tombe dans une poubelle, on ne le voit pas sortir de la poubelle. Hein.
Avant une bonne heure de film, je dirais.
Ouais, je pense qu'il
va dormir en fait.
Bah, je pense qu'il est tellement.
Il est dans son rôle.
Il est en descente d'acide. Kenny, lui, se fait descendre et c'est une fin de tournage pour ce bon vieux Kenny.
Qui meurt sur
des chiottes. Oh mon dieu, ils vont tuer Kenny!
Espèce d'enfoiré! Ouais.
Qui meurt sur des chiottes géantes. Ça, je trouve ça très drôle.
Oui.
Donc, on retourne voir Boxer et Ronald qui sont au resto et on découvre que globalement, Ronald est de plus en plus proche du perso que Boxer avait écrit pour son film. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai pas trop suivi, Boxer se retrouve à discuter avec une partie de la team du baron sans Ronald. Et résumé de la discussion est ton scénario, c'est le futur. Du coup, il est un peu choqué. Ah, et aussi, ils disent que c'est un beau gosse, je crois, au passage.
Grosso modo, c'est la scène où tu te rends compte que les fameux scientifiques qui ont créé le karma fluide, parce que c'est de eux dont il s'agit, y a un truc bizarre avec eux vis-à-vis de Boxer.
Ouais. Je pense que le truc le plus bizarre, c'est qu'il y a un des scientifiques qui ressemble vraiment, vraiment à la meuf dans Monstres et Compagnie.
De fou! Voilà,
j'ai oublié son nom, mais vraiment
La réceptionniste.
La réceptionniste. C'est vraiment physiquement elle, mais en humain. On retourne à Starla, de son côté, qui elle est tellement fan de Boxer qu'elle a téléchargé... de Boxer. Qu'elle a téléchargé le scénario de son prochain film. Alors ça, j'adore. Le mec, il a écrit un film avec sa meuf. Le scénario est partout. Tout le monde l'a lu. Tout le monde le connaît. Et en fait, elle est tellement à fond qu'elle pense être un des personnages du truc. Donc elle se prend vraiment pour la personne, en l'occurrence. Et elle regarde des vidéos, des caméras de surveillance de chiottes depuis plus de 24 heures. Pendant ce temps-là, Boxer et Ronald sont enfin appelés pour l'embrouille prévue par le plan des néo-marxistes. Et du coup, Dion et Dream se préparent, se mettent dans les personnages et lancent l'embrouille. Attention, acteur studio.
Tu l'as baisé ?
Ouais, je l'ai baisé. Ah ! Je l'ai baisé bien en plus.
Ah ! Et ça t'a plu ?
J'ai pris un putain de pied.
Ah, t'es qu'une chèvre !
Et je me suis tapé ton frère hier soir. Ah !
J'ai coupé parce que c'est si long sa mère.
Alors, ce qui est génial, c'est que quand ils commencent, parce qu'en fait, ils commencent à s'engueuler hyper tôt avant
les
gens n'arrivent
pas là, hein.
Pour se faire détecter par US Aident. Et il y a un moment où je sais plus lequel des deux dit à l'autre, putain, mais t'es trop beau en impro, etc. Et en fait, comme la VF sonne un peu faux,
c'est parfait.
C'est encore mieux.
C'est vraiment parfait.
Ronald et Boxer, eux, sont en chemin pour les rejoindre, mais sur le trajet, en s'arrêtant à un feu, ils croisent un autre policier qui leur fait « Dis donc les mecs, vous n'êtes pas du tout dans votre secteur. Du coup, bah, je vais venir avec vous, au cas où, s'il y a besoin. » Oups, petit couac dans le plan. Ils arrivent donc tous les trois sur la scène où Dion et Dream continuent de s'engueuler de façon très 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 réaliste et le flic ne se pose aucune question et les bute tous les deux.
Pour de vrai.
Pour de vrai.
Alors qu'en fait, le plan, c'est, on revient un petit peu en arrière, c'est que Zora avait acheté les balles à blanc pour faire croire à un vrai meurtre.
J'ai oublié d'expliquer le plan.
Oui, c'est pour ça qu'elle avait, acheté des balles à blanc, c'était pour un vrai faux meurtre.
Petite note là, sur cette scène, j'adore la poche de sang qui fait.
Oui.
D'après.
Ouais, non, mais vraiment le timing est éclaté.
C'est très très drôle. Et en fait, ce policier, bah, il va nous servir, dont on y va servir plus tard, et c'était l'officier Bart.
Donc. Les deux sont butés, clairement. Ronald est boxeur qui s'attendait pas du tout à des... Enfin, bon, boxeur, de toute façon, il allait être choc-barre, mais Ronald qui s'attendait pas trop à ça. Les deux sont clairement choqués. Le flic prend la caméra de boxeur et le filme. Et je crois que c'est la première fois dans le film qu'on voit le geste fantastique de boxeur qui, globalement... vous voyez Monsieur Burns qui met ses doigts les uns en face des autres. Bah là, il le fait à répétition en étant complètement gêné et traumatisé. C'est très drôle, il le fait très souvent.
Oui, et d'ailleurs, vraiment, big up à The Rock, parce qu'il a vraiment un petit regard d'enfant un peu, oui, bah, un peu perdu, alors, un peu...
Je trouve que The Rock est très très bon dans le film, pour le coup, genre son...
Alors, je risque de me battre et de battre contre beaucoup de gens, mais je trouve que The Rock est un excellent acteur qui veut juste s'éclater en faisant des films complètement cons.
En fait, ce que je trouve dommage, c'est que Social Ties a bidé, et je trouve qu'il est incroyable dans ce film, moi je suis d'accord. Et d'ailleurs, le fameux tic, c'était une impro de sa part, que Richard Kelly a adoré. Il a fait « Vas-y, continue, c'est génial, c'est ce qu'il faut faire. »
Oui, oui, clairement.
Et vraiment, le fait d'avoir... De toute façon, en fait, si tu prends les quatre personnages principaux du film, aucun ne joue le personnage qu'il est censé jouer naturellement. D'habitude, Dwayne Johnson, c'était l'armoire à glace. Il joue dans le roi scorpion. Enfin, tu sais, il fait le roi scorpion, il fait machin. C'est le gros mec balèze. Le flic, normalement, c'est Stifler, quoi. C'est un acteur comique. Sarah Michelle Gellar, elle pète des culs, tu vois. Et en fait,
ils sont tous aux antipodes. Ils jouent leur contraire.
Ils jouent toujours leur contraire. Et du coup, pour Dwayne Johnson, je trouve ça trop bien. Et d'ailleurs, lui, il adorait le film. Vraiment, il croyait à fond. Il était hyper content du film. Et quand ils se sont fait démonter, bah, du coup, on se retrouve avec Dwayne Johnson qui joue toujours le même rôle. Il fait signer des contrats pour pas qu'il crève dans le film, etc.
Ouais,
et alors qu'à côté, t'as Justin Timberlake qui disait en 2015 « Ah non, mais moi, j'ai toujours pas compris le film. »
Oui, oui, oui.
Et du coup, bah, les deux sont clairement choqués. Ils se barrent. Et on a donc un petit plan sur Justin Timberlake qui raconte que c'était pourtant un excellent plan de voir un flic raciste tirer sur deux personnes racisées, enfin au moins une des deux racisées, sous la caméra d'une star d'Hollywood proche de la droite. Et on sait qu'en 2025, ce genre de filmer des gens qui tuent des flics qui tuent des personnes racisées, ça marche vachement bien.
Après, du coup, ce plan complètement foireux et complètement foiré, nos deux personnages, donc Ronald et Boxer... se sépare et fuit avec le premier clip show du film, donc sous une musique des Pixies, fort sympathique. L'une des choses que je ne comprends pas de ce film, c'est je ne comprends pas pourquoi, du point de vue de Boxer, il a exactement les mêmes effets psychédéliques que Roland qui dort, parce que lui, il n'a pas été drogué.
Il souffre d'amnésie.
Alors, il est stressé.
Il me semble... Par rapport au voyage temporel, bon, il me semble que les deux ont un truc en commun.
Ah, c'est le voyage temporel,
par
c'est pas la drogue qui lui met par rapport au truc.
En fait, ils ont la même baguette magique avec la même plume et du coup, ils sont liés par l'esprit,
en fait,
c'est ça ?
Il me semble que ce sont tous les deux leur eux du futur.
Oui.
Ok, je confirme. Ok, j'arrête. Pardon, j'ai posé des questions, j'aurais pas dû.
Je me taper la tête contre la table.
Il fuit sous la scène, donc le premier clip show du film. Il y aura plusieurs clip shows. Alors, qu'est-ce que c'est un clip show ? C'est une scène musicale où, quand même, le seul intérêt de la scène est la musique en elle-même. Sinon, au niveau de l'histoire ou du visuel, ça n'a pas grand intérêt. Et c'est vrai que le film n'était pas déjà assez long comme ça. Nous avançons et nous avons une magnifique transition sur une pub.
Oh putain, meilleure scène du film.
Une pub de voiture sponsorisée par les gens qui ont créé Karma Fluid, la marque de la voiture, donc c'est Saltair. Et nous avons en fait en animation 3D deux voitures qui s'accouplent et pas en mode, vraiment pas en mode prise de vue de loin. Non, c'est-à-dire que nous avons un pot d'échappement qui se transforme en vulve et un autre pot d'échappement qui bande pour pénétrer la voiture et donc qui copule un petit peu comme des vaches de la pub Saltair. J'ai arrêté.
Ouais.
J'ai adoré.
Alors j'adore le mot bof, mais vraiment pareil. Mais ça m'a désespéré quand j'ai maté cette scène. J'arrive pas.
Moi j'étais mort de rire, puis j'ai mis sur pause et dit bon, je m'arrête pour aujourd'hui, je continuerai un autre jour.
Oh, c'est génial.
Mais en fait, là, tu vois, on souffre du truc de je sais pas si c'est sérieux ou pas. Je n'ai pas compris si le film se prenait au sérieux. Et du coup, je suis là genre...
Mais les deux.
Ouf.
Bah, c'est bien le problème.
C'est une comédie. Vraiment, le film veut être drôle, et veut être drôle, veut être sérieux, veut être
satirique.
C'est un chaos complet. Et
Oui, c'est un chaos complet en deux lettres.
Habile.
Après cette pub, nous avons un discours du fondateur de Karma Fluide, donc qui rend hommage à l'océan et à l'énergie perpétuelle. Nous avons Starla qui appelle un The Rock tout en panique pour lui dire « J'ai des informations secrètes, rendez-vous sur la plage ».
Point important, elle se fait passer pour le scientifique dans son film.
Oui, et lui gobe totalement le truc. C'est-à-dire qu'il se dit pas en mode « Mais ce personnage n'existe pas puisque je l'ai créé. » Non, il y va.
Et elle l'appelle par le nom du personnage dans le film et lui, il trouve ça totalement cohérent finalement.
Et il y va. Nous revenons du coup sur nos trois lascars au plan ingénieux, c'est-à-dire Roland le flic, enfin faux flic, Zora la dredeuse et comment il s'appelle ?
Le mec au roller rigolo.
C'est ça, le mec au roller rigolo. Alors il a pas beaucoup de répliques, mais peut-être que vous aurez reconnu la voix de Christophe Lemoine, Eric Cartman.
Mais oui.
Oui.
Ah,
oui,
vous,
oui,
non,
oui.
Donc il a la voix d'Eric Cartman. Bon, ils font un petit bilan du plan qui n'a pas très bien marché. Ils sont en mode bon. On va peut-être se séparer, le néo-marxiste. Bing, il est plus très chaud là, à suivre le mouvement. Et donc, tu as Roland qui se fait endormir par Zora, et tu as Bing qui se casse et qui se fait écraser.
Oui, voilà.
Tu te fais écraser par qui d'ailleurs ?
Tu te fais écraser par l'agent Bart.
Par l'agent Bart,
parce qu'on apprend que Zora et Bart travaillent ensemble depuis le début, parce que en fait Zora, c'était son plan que ça soit un vrai meurtre.
Plot twist.
J'avais pas capté.
Parce que en gros, elle est pas d'accord avec la manière dont font trop sage de ses ex-collègues qui sont maintenant décédés, et elle, il faut y aller vraiment par la violence. Donc elle les fait vraiment assassiner par l'agent Bart. Un flic raciste avec la présence de Boxer Santaros qui est lié au Parti Républicain pour vraiment faire chanter le... Mais elle est plus dans une optique de faire chanter le Parti Républicain plutôt que d'influer sur les élections, en fait. Vraiment, c'est beaucoup plus vénal, en fait, que politique pour elle.
Ouais. Okay. Donc, en fait, finalement, le plan qu'on pensait foireux n'a pas foiré. Parce que plot twist. Nous avons Ronald Kidder qui se réveille. Et qui sort de sa poubelle et on voit une mystérieuse lumière blanche qui sort de sa main. Pour l'instant, on n'en sait pas plus.
C'est du Musper.
Du Saint Musper alors, parce que vraiment ça brille de mille feux.
C'est radioactif.
C'est ça. Il sort de sa poubelle au milieu de la nuit, essaie de trouver un portable qui est appelé et il tombe sur Christophe Lambert qui fait le seul rire à la Christophe Lambert du film. Un petit peu pauvre d'ailleurs, je trouve, parce qu'il le fait pas tant que ça. Donc bref, Ronald demande le portable à Christophe Lambert. Il essaye d'appeler et t'as Christophe Lambert qui dit « Mais attends, mais je le connais ce boug !» Bah, il a fait la guerre en Irak. Et il décide de l'assommer. Donc Ronald, qui s'était à peine réveillé, se rendort.
Et les villageois se rendorment.
Vraiment, je crois qu'il est debout 2 minutes. Là, il a été debout 2 minutes et puis bouc.
Suite à cela, on arrive dans le manoir du sénateur qui ont fait venir Boxer Santaros, parce que c'est pas Starla qui a appelé Boxer Santaros, je me rends compte, c'est son ex-femme,
oui,
enfin sa femme.
C'est ça, joué par Mandy Moore, oui c'est ça.
C'est ça, ouais. Qui l'a fait venir jusqu'au manoir. Au manoir, ils font venir Krista Now et ils commencent à lui demander « Donne-nous la sextape, on sait que tu es Gorge Profonde 2 ». Celle qui fait chanter le gouvernement de diffuser la sextape pour les discréditer sous $1 million et le fameuse loi 69. Sauf que c'est pas Krista qui les fait chanter depuis le début. Krista, elle est vraiment amoureuse de Boxer et elle veut juste faire son film avec lui. Alors là, il s'ensuit une discussion assez lunaire entre la fille du sénateur qui est la femme de Boxer, Boxer qui comprend rien de ce qui se passe,
comme
Krista,
nous,
qui comprend rien de ce qui se passe, le sénateur qui pensait avoir tout deviné, du coup, comprend rien de ce qui se passe.
On découvre que le personnage de Mandy Moore est enceinte, on pense que c'est de Boxer, et en fait, pas du tout, c'est du... secrétaire de l'assistant vraiment qui était là au fond et qui maintenant
en fait elle était choquée que Boxer la trompe, mais en fait elle trompait aussi.
Donc du coup tout le monde est de la saloperie, évidemment,
c'est ça, mais il faut absolument que cette sextape soit retrouvée parce que sinon ça va détruire la crédibilité des républicains. Et surtout il y a Christana, il lui demande mais comment t'as fait pour retrouver Boxer, et là il y a le fameux baron des scientifiques qui est là et Krista le pointe en disant mais c'est lui qui m'a demandé d'aller dans le désert pour aller retrouver Boxer. Et là le baron il se défend en mode vous allez vraiment la croire, c'est une actrice porno alors que moi quand même je suis le plus grand scientifique du monde, c'est complètement faux ce qu'elle raconte. On apprendra plus tard que c'est complètement
vrai. Complètement vrai.
Et là-dessus, Krista s'en va parce que du coup, elle a rien de plus à leur apporter vu qu'elle ne possède pas cette fameuse sextape. Et Boxer, lui, repart et a une discussion avec la naine dont j'ai oublié les détails.
Il parle un petit peu de téléportation quantique, il me semble.
Oui, mais elle l'envoie quelque part.
Elle l'envoie quelque part, bah, elle l'envoie à la plage. Enfin, à un moment, il y a Boxer qui va se retrouver à la plage.
Mais je crois qu'en fait, Non, mais c'est ça, je crois que c'est... Pareil, c'est les, la plupart des interactions avec les boxeurs et les scientifiques dans, au début, milieu du film, c'est « Waouh, mystique, mystère, on a un truc avec toi, mais on va pas dire ce que c'est, va là-bas. »
Ensuite, nous avançons un petit peu et nous retrouvons l'équipe de la création de Karma Fluid qui sont au Japon et qui passent un deal avec un japonais...
Le japonais qui s'appelle Hideo Takahashi, qui concrètement veut le Karma Fluid. En échange de c'est une petite alliance quoi, tranquille entre les Japonais et le baron pour qu'il lui donne un doigt en échange du karma fluide.
Pourquoi un doigt au lieu de la, je sais pas, de la thune par exemple?
Alors en fait, c'est le premier clin d'œil, enfin le deuxième clin d'œil du coup, que peut-être que le baron a un lien avec les néo-marxistes.
Le Japon, le mec du Japon, les Japonais ils votent pas?
Mais oui, ça a pas de sens. C'est pas un citoyen américain. Et en plus, les doigts qui coupent depuis le début, c'est des pouces. Et là, ils voulaient lui couper le petit doigt.
Écoute, il y a bien des fétichistes.
Ça n'a aucun sens.
Il y a bien des fétichistes des pieds. Il y a peut-être des fétichistes.
Quoi, tu veux dire qu'il y a une incohérence dans le film?
Non, moi, je pense qu'il y a autre chose. Parce que, au fait, au Japon, il me semble que les yakuza, quand ils s'en vont, ils doivent laisser leur petit doigt. Il y a une histoire comme ça. Ah, c'est pas un truc comme ça.
Ouais, mais
malheureusement, je manque.
Et du coup, je comprends
culture,
pas pourquoi les types de karma fluide arriveraient pour demander le petit. Enfin,
surtout qu'en plus, on s'en bat les couilles de son petit doigt puisque finalement, il lui coupe la main en entier.
Oui, alors oui, mais pourquoi il lui coupe la main en entier? Parce que mais en fait, le baron, il est trop méchant. Et dans le contrat, il y avait écrit qu'il y avait 15 cm de marge d'erreur. Et du coup, le japonais, il est pas très content, quoi. Il leur crie dessus en mode vous avez dit que le doigt. Vous avez dit que le doigt, c'est limite, il n'y a pas un rire maléfique de la part du baron à côté. Et donc voilà, t'as le baron qui commence à rigoler, qui dit mettez sa main dans du bronze, je suis méchant. Et là, changement de plan, nous avons Jean-Michel Camionneur qui conduit et qui arrive
Christophe Lambert, sinon, s'il te plaît, commence pas à mettre des surnoms sur des personnages, on va dire le personnage
de
Christophe Lambert.
Oui, parce que là, j'ai mis les noms des personnages, mais dans mes notes, ce n'est pas le cas parce que j'étais toute seule quand j'ai fait ma partie. Et donc, il arrive dans un endroit que peut-être vous avez, un des QG que vous avez déjà expliqué au début de l'intro, qui est une sorte de salle d'arcane abandonnée, pour la décrire, l'esthétique est assez sympa. Et Justin Timberlake le retrouve et du coup lui échange, lui donne une mallette avec du karma fluide pur. Donc il explique que y a différentes couleurs qui ont différents buts. Donc c'est un peu lunaire, c'est le vert, tu quittes la terre, bleu, tu renais en moins de deux, le jaune et l'orange, on s'en bat les couilles, mais par contre le rouge, tu parles à Dieu sans même le voir. Et il se fait un petit shot sur lui-même dans son cou. Et c'est de la MD. Hein. Concrètement, le karma fluide rouge, c'est de la putain de MD.
Le truc avec cette scène, c'est que là, j'étais en train de dire, OK, donc là, on était sur un des acteurs porno et de la géopolitique. On se retrouve avec un trafic de drogue. J'ai l'impression que toutes les 15 minutes, le film, il dit, attends, on va commencer un nouveau scénario en même temps.
Mais non, en fait, ça laisse lieu à un moment très simple, puisque Justin Timberlake, on sait pourquoi il est connu également. Donc, il est dans son trip, il tombe à terre, et là, deuxième séquence musicale, où il chante sur le fait que la guerre c'est mal et il y a des infirmières sexy.
Il ne chante pas, c'est vraiment la bande passante de la chanson The Killers. Donc c'est pas lui qui chante en plus. Donc c'est vraiment un lip sync.
Par contre,
scène très jolie avec des nanas en mode pin-up des années 50. Enfin vraiment, le truc est... c'est un très beau clip.
Ouais, qu'est-ce que ça va foutre là? Par contre, j'en sais rien. Donc ensuite, changement de plan sur le flic, donc Roland, qui est au sol, qui se lève et qui court hors du plan. Voilà, et là, ça... petit fond pour expliquer qu'on arrive donc à la phase 6, la vague de mutilation. On arrive sur une sorte de plan, sur une sorte de base militaire, j'ai pas tout compris, puis un cours de yoga dans un bureau où la narration, elle explique le comportement des gens en général et comment il est impacté.
C'est quand elle fait sa séance de yoga avec les employés, en mode networking et
oui,
tout ça.
Oui, c'est ça, genre vraiment, j'avais l'impression d'avoir une sorte de pub pour un yaourt, Donc ensuite, on va parler de l'ouverture du Méga Zeppelin 3 qui marcherait au Karma Fluid. Donc voilà, on reparle de cette super merde. Et là, changement de plan, on arrive donc à Krista et Zora qui se parlent, hein, concrètement. Ça fait des petites blagues de cul. Et Krista explique qu'elle veut de la cam pour le tournage de sa prochaine émission sur le web. Et là, bah, elle se balade dans là où Zara est, dans sa sorte de zone, maison, QG, ce que vous voulez. Et elle voit la cassette compromettante de The Rock sur une chaise où il y a écrit « boxeur » en gros dessus, au cas où on n'ait pas compris. Elle demande à la nana comment elle l'a eu, et puis là, ban, changement de plan, elle se balade sur la plage, donc Krista toujours, et Blondasse numéro 2. Elle explique qu'elle a pris la cassette et qu'elle veut la rendre publique, donc elle lui demande comment, et Blondasse numéro 2 lui explique qu'il y a un site pour faire tomber le gouvernement du USI Dance qui s'appelle www.usidef.org. Il faut donner la vidéo aux néo-marxistes qui ont donc des points de contrôle un petit peu partout dans la ville.
Sachant que Krista, à ce moment, pense que Zora et Gorge Profonde 2, et que c'est la sextape, vu qu'elle en entendait dû parler dans le manoir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette vidéo est vachement plus compromettante que la sextape originale, vu que c'est la vidéo du meurtre des faux mariés.
Oui.
Ah, mon cerveau.
Ça se recoupe. Il y a des trucs qui se recoupent,
Conclusion, si vous regardez ce film, et un JB avec vous.
Prenez et trois comics,
et beaucoup de temps, et beaucoup de Doliprane.
Ensuite, dernier changement de plan, et je n'ai plus à parler de l'épisode, on a un jeune dans sa caisse qui regarde un petit peu un programme de l'armée avec le fameux oncle Sam qui dit « engagez-vous, ça va être bien », qui chantonne un truc en mode « bon, bah puisque c'est la fin, il veut se suicider, il a un gun dans la main ». Et là, on a Roland Jean-Michel Flic qui arrive et qui lui dit « pose ce flingue, j'ai besoin de ton aide pour m'aider à retrouver mon frère ».
Et il lui dit ok.
Il lui dit ok, mais genre direct, il a genre bon bah d'accord. Et le mec monte dans la voiture et ils s'en vont dans le soleil couchant. Non, pas du tout, il se casse juste. Voilà.
Est-ce qu'on donnerait pas un nom à ce jeune parce qu'on va le revoir?
Oui, il va être important. Il a un
le jeune.
Bandanaman.
Ça reprend ensuite sur un plan où on voit le gouverneur assis à une terrasse d'un restaurant pour faire la rencontre de Gorge Profonde 2. Alors j'ai pas bien compris à quel moment il a compris que Krista n'était pas Gorge Profonde 2, comment ils ont donné rendez-vous, machin et tout. Ils sont là.
Mais elle l'a dit, en fait, pendant qu'il l'a rencontré.
C'est ça. Elle lui révèle qu'elle est Gorge Profonde 2. Oui. Et là, il lui dit, bah, du coup, je sais qui t'es, parce que je connais ton nom. En fait, il savait pas que c'était elle, Gorge Profonde 2, mais maintenant qu'il la voit de visage, il connaît son nom.
Donc, il lui balance plein d'infos sur elle, en mode, en fait, je peux te foutre dans la merde aussi.
Et du coup, l'idée, c'est qu'ils se rencontrent pour qu'elle lui donne la cassette, enfin, la sextape, en l'échange de la rançon. Et du coup, après, on n'en parle plus.
D'ailleurs, la rançon, elle explique ce qu'elle veut en faire. Et là, j'ai fait, ah, en fait, elle voulait pas juste la thune pour elle, mais je n'ai plus du tout, j'ai complètement oublié l'info de ce qu'elle voulait faire avec.
Je sais
pas. Elle veut aider les néo-marxistes, hein.
Non, je crois que c'est envoyé pour ceux qui sont, pour les enfants en Irak qui se retrouvent.
Oui,
non,
alors, littéralement, cette scène, c'est enfin, moi, j'avais l'impression de voir une espèce de blague d'un personnage ultra caricaturé du droit tardé américain face au wokistanais de base, tu vois, genre...
Bah, c'est ça la scène, non?
J'ai 5-6 maris et puis je vais financer des trucs à l'autre bout du monde pour les personnes esselées ou je sais pas quoi.
Et il lui donne des coups de taser dans les couilles. Et, ça, c'est
du coup, voilà, ce qui se passe, c'est que les deux vont se balancer des menaces l'un l'autre et ça va se finir en elle qui va lui taser les couilles. Et moi, je trouve ça un peu drôle. Ce qui va lui dire que, au fait, mon coco, il y a une autre cassette qui se balade dans la nature qui est vachement plus compromettante que cette petite sextape de merde. Et sur ce, elle va se casser. Elle va recevoir ensuite un appel de Zora la meuf au dread, bien vénère d'avoir perdu la cassette des mains. Du coup, on passe ensuite sur une scène à la plage. On voit la meuf qui bouffait des chips Starla qui est sur la plage pour donner rendez-vous à
The Rock.
Son beau The Rock, boxeur donc. Boxeur. Merci. On voit juste Boxer qui se balade genre au soleil, trop content. Il a son six-pack dans la main. Mais quand je dis six-pack, c'est genre, il y a les six bières attachées ensemble et il les tient comme ça, genre...
Et il les boit.
Les enfile, il les détache même pas. C'est,
c'est très américain puis, de faire ça.
Franchement, moi, si j'étais dans ce film, je voudrais me bourrer la gueule aussi. Hein, donc,
Vous imaginez le plan, genre, il a le visage baigné de soleil et il est là, c'est génial. Et il se boit son six-pack comme ça.
Pire, c'est qu'il dit vraiment ça, je crois.
Oui, vraiment, génial. C'est génial.
Donc on passe un peu sur un flash info, les catastrophes climatiques qui se multiplient à travers les États-Unis, des incendies, des séismes, des trucs machin. On revient tout de suite sur le sniper pilote, c'est ça ?
Justin Timberlake.
Il a boxeur dans le viseur. L'agente bouffeuse de chips
et de chibre
vient donc tout lui expliquer qu'elle risque sa vie pour lui dire ça, qu'il est le sauveur de l'humanité. Phrase à laquelle il va juste répondre oui.
Sachant qu'elle s'adresse à lui, ce qu'on l'a pas trop redit depuis le début de l'explication, elle s'adresse à lui en tant que Jericho Kane, donc le personnage oui, du scénario, le pouvoir.
Voilà, c'est ça.
Elle lui explique qu'il doit monter dans le méga zeppelin, chercher le secret dans le cabinet du baron et qu'ils ont trouvé un cadavre dans sa voiture au milieu du désert, qu'il les écoute et aussi qu'elle veut lui sucer la bite, genre sans interruption, comme ça, vraiment, ça s'enchaîne de cette manière et que s'il lui laisse pas lui sucer la bite, elle se flingue, suite à quoi elle sort son flingue, elle le pointe sur sa tempe et elle lui dit « vas-y, baisse ton froc maintenant ». Bon, il se met à stresser, faire son petit truc avec les doigts, là, en mode Monsieur Burns. Il dit ok c'est bon, on va prendre une chambre à l'hôtel, t'inquiète. Et là il se fait buter par le sniper,
par Justin Timberlake, ouais.
Et j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand je me suis renseigné, donc film à très très petit budget. Le problème c'est qu'avec 17 millions de dollars réservé Venice Beach à Los Angeles pour un tournage, c'est pas possible. Donc du coup ils ont dû tourner avec de la population autour. Et pour donner le signal du coup de feu, ils ont mis un bruit de coup de feu très fort.
Ah, putain.
Et ça a créé un léger petit mouvement de panique, alors pas vénère, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu, mais ça a fait un peu flipper les gens sur la plage qui ont cru qu'il y avait une bombe,
oh,
etc.
L'enfer.
Sachant que on est en 2005, je crois, au moment du tournage.
Ouais, non, mais donc, même les Américains.
On est encore dans l'Amérique post-11 septembre, ils sont encore très trauma par ça. Donc, ouais, j'ai vu cette petite anecdote et ça m'a fait doucement ricaner.
On repasse du coup sur la chef de USAIDENT qui lance du coup ses agents aller intercepter Zora et Bart qui veulent récupérer la cassette compromettante pour pas qu'il la récupère du coup, pour que Krista continue à l'avoir entre les mains. On passe sur Krista qui tourne son émission avec ses potes, caméra à l'épaule, qui rentre dans un bar et elle va en profiter au fait à l'abri des regards dans les toilettes pour cacher pour poser la cassette dans la cache des marxistes
qui ressemble à un glory hole.
Oui, alors
qui
c'est
est
pas
littéralement
du tout...
un glory hole, alors... c'est marqué glory hole au-dessus.
Ouais. Fit the hole, j'ai le plan juste là.
Et surtout c'est pas du tout discret parce qu'il y a un énorme portrait de Karl Marx dessus quoi.
Donc voilà, la cassette est posée dans la cage des néo-marxistes et là Zora débarque dans le bar et sort son bâton télescopique pour aller courir sur Krista. Bon, manque de peau, le bar il est peuplé donc elle va pas aller très loin parce que dès qu'elle va un peu foncer dans les gens, elle va déclencher une bagarre, Krista va pouvoir s'enfuir, elle va lui courir un peu après, lui dire « espèce de conne, c'est pas la bonne cassette !» et se faire buter par le sniper, son Bart aussi du coup.
Ouais.
Et ça s'arrête là. Globalement, j'ai pas trop compris l'intérêt de cette scène.
Bah, on se débarrasse de quelques persos. Ouais, ça nous fait des noms en moins.
On épure le scénario, ça s'appelle.
Ça tombe bien. Du bien.
Parce qu'il y a quand même d'autres personnages qui arrivent après.
Ouais.
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 Retour sur la chef d'Aident qui surveille les caméras. Elle voit des saoulards qui vomissent. Petit plan discret sur Fortunéo qui donne rendez-vous à Boxer sur la plage pour qu'il puisse papoter. On passe sur la chef du USAIDENT qui surveille ça aux caméras, sur Boxer qui arrive sur la plage entouré de tonnes de monde. Et là, il va y avoir la confrontation entre Fortunéo et Boxer. J'ai pas bien compris, au fait, pourquoi, au moment de voir Fortunéo, Boxer, il se dit « Ok, tu es un traître ». Mais il se met torse nu, alors que faut savoir qu'à ce moment-là, Fortunéo est encadré de deux loubards, dont l'un avec un shotgun dans les mains quand même. Et là, tu te dis pas, je vais mettre torse nu pour aller leur taper la gueule et je vais m'enfiler une bière aussi.
Ils s'en foutent partout, c'est fantastique.
Gabien, si c'était la seule scène lunaire du film où tu te dis, mais à quoi ça sert ?
Oui, je pense que ça vaut pas le coup de s'arrêter dessus.
Et puis, attention, c'est Jericho Kane. C'est pas n'importe
qui. Oui, c'est vrai.
Jericho Kane avance d'un pas, coup de shotgun pour lui faire peur, il s'arrête. Voilà. Et il se fait étrangler par des mecs de la foule, il se fait embarquer, mettre dans un camion et on va pas revoir avant quelques petites minutes. Petit flash info, on nous apprend que ça commence à bouillonner sévère les néo-marxistes, qu'ils sont en train de préparer la révolution. Des petits flashs, retour de la pub avec le 4x4 qui fait du sexe.
Oh putain, ouais. C'est vrai.
Très très fugace.
On n'en avait pas eu assez la première fois.
Non. On est sur une scène avec Roland le flic et Bandana Man qui explique qu'il voulait se suicider pour pas partir faire la guerre en Irak. Parce qu'en fait, il avait été conscrit de force et voilà, c'est préférable la mise à mort Bon, suite à quoi Roland se prend en shoot là de la drogue que le jeune avait sur lui. Il prend la dose rouge du coup, et là il semble avoir des espèces de flashbacks, une espèce de correspondance avec, comment il s'appelle, Pilote, du coup le Justin Timberlake. On revient sur Boxer qui est au pieu avec sa copine qui se réveille. Et c'est la femme officielle de Boxer, donc pas Christa. Elle lui dit qu'il dit des choses bizarres dans son sommeil et que tout s'achève ce soir. Enfin, lui explique que ce qu'il a voulu dire c'est que dans son sommeil, c'est que tout s'achève ce soir même. C'est la fin du monde. Pendant ce temps, Gorge Profonde arrive à la soirée de fin du monde et manigance avec un autre néo-marxiste pour rendre public la sextape. Qui n'est pas du tout une sextape, du coup. Hein.
La vidéo du meurtre.
On repasse, du coup, sur la femme de Boxer et Boxer qui embarque dans le méga zeppelin. On voit d'ailleurs de la déco un peu chelou avec des tableaux, c'est que des explosions nucléaires.
Moi j'aime bien la déco.
On voit la meuf du baron qui s'enjaille sur des balances sonores un peu ratées.
C'est la chinoise aux cheveux roux. Ouais.
Mention pour ce plan séquence qui est assez long mais que j'ai trouvé très réussi.
Ouais,
il m'a marqué, j'ai fait.
Où il marche. Là,
et en fait, ouais, c'est ça. Globalement, on suit différents personnages et ça fait le tour du zeppelin et on voit un peu les différentes pièces principales du zeppelin par ce moyen-là.
Ouais.
Et on comprend que tous les personnages, donc pas néo-marxistes mais du coup côté US Aiden sont là, sauf la femme du gouverneur. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Enfin, en vrai, cette scène, je trouvais vraiment cool.
On revient sur Boxer qui se fait convier seul à la suite Marx, oui, parce qu'il y a une suite Marx dans les dirigeables. Pourquoi pas, j'en ai plus rien à
dire. J'ai halluciné vraiment, ils sont complètement claqués. Ah mais si, en fait, si, c'est cohérent de ouf.
Mais oui.
Parce que c'est le dirigeable du baron.
Mais oui.
Donc en fait, c'est carrément logique.
Mais oui.
Enfin, j'ai commencé à comprendre JB.
Et en fait, il va adorer le film.
Mais je l'aime déjà, mais je comprends mieux.
Et vous voyez le moment où est mentionné pour la première fois USA Death.
Ouais.
Oui.
On a l'image d'un monsieur barbu qui ressemble un peu vaguement à Karl Marx, en tenue militaire.
Ouais.
Qui est dans le zeppelin parce que c'est un allié du baron.
Mais oui, mais ça c'est cohérent de ouf. Non, mais oui, bien sûr.
Oh la vache.
Mais en fait, c'est super logique, c'est juste super mal expliqué.
C'est pas facile.
Tout dans le film, quoi.
C'est vraiment pas facile.
Du coup, on a notre boxeur Santaro national qui va donc en quête de la suite Marx, qui va se balader dans un couloir. Et qui va tomber sur une boîte avec une lumière orange clignotante au-dessus. Ok.
Et un flingue, je crois.
Truc à l'arme incendie. Et oui, dans la boîte, il y a un flingue. Donc, il va prendre le flingue et il va prendre l'ascenseur pour aller à la suite, Marx. Au moment où les portes s'ouvrent, il s'est pointé par le barbu marxiste. Enfin, Karl Marx.
Karl, en vrai. Hein.
Karl Marx le pointe donc au moment où il sort de l'ascenseur. Il sort lui aussi son flingue. Il dit, mec, c'est bon. Baisse ton flingue. T'es con. Viens, installe-toi, mais baisse ton flingue. Et... Karl Marx, faut le savoir, est accompagné de deux scientifiques qui vont lui expliquer tout depuis le début. Qu'en fait, leur machine là, qui fait du karma fluide, ça a créé une rupture du continuum espace-temps, machin truc. Il y a une faille temporelle qui est apparue pas loin d'ici, de à peu près un demi-kilomètre de long. Ils ont balancé des singes pour voir ce que ça donnait. Ça marche pas avec les singes parce que
ils n'ont pas d'âme. Je crois que c'est un rapport avec
exactement.
L'âme.
Et étonnamment, Boxer le sait. C'est lui qui dit.
Mais oui.
Les singes ne peuvent pas parce que ça marche pas.
Mais oui, parce que Boxer se rend compte
que son scénario est
la réalité. Et du coup, il l'explique. Il dit, non, ça n'a pas marché avec les singes parce que seule l'âme humaine peut passer au travers de la faille temporelle. Est-ce que ça a du sens? Non, mais ta gueule, c'est magique.
Oui,
ta gueule, c'est de la SF. Voilà.
Pardon.
Ta gueule, c'est de la merde surtout.
Donc voilà, il balance des singes, ça marche pas parce que les singes ont pas d'âme. Du coup, faut y balancer des humains. Quelle idée ont du coup les scientifiques? Balancer plutôt que n'importe qui serait un peu formé, qui serait dans la boucle, qui serait lui-même un scientifique. Non, on va prendre Boxer Santaro.
Une star.
Qui est une star, qui est aussi également le fils. Le gendre du sénateur, rien ne peut mal se passer. Je comprends pas, au fait, pourquoi avoir pris lui.
Mais
parce que c'est les États-Unis.
Voilà.
C'est la seule explication. Les États-Unis. America, fuck yeah.
C'est exactement la raison pour laquelle ils l'ont envoyé dedans. Hein. C'est pas une raison.
Je crois que la petite nana qui ressemble à la créature de Monstre et Compagnie dit une phrase qui résume le truc en mode oui, grâce à votre popularité et à votre statut, il était rien de plus naturel que ce soit vous qui passiez dans la machine. Oui. Je crois que c'est ça l'explication et tu te démerdes.
C'est littéralement t'es un beau gosse donc fais-le.
Ah, et quel beau gosse!
Du coup, c'est bien Boxer Sentaro qui est passé à travers la faille. Mais manque de peau, bah, il a été renvoyé 69 minutes dans le passé. Donc il se retrouve avec un double sur les bras.
69 minutes comme la loi 509 qu'ils essayent de faire passer depuis le début.
Et comme la position sexuelle, c'est marrant.
J'avais même
subtil, subtil.
Une seule et unique signification.
Et comme quoi j'ai bien géré mes sons.
Bravo.
Du coup, Boxer se retrouve donc sur les bras avec un double du passé mort devant lui. Parce que oui, depuis le début, ils avaient la boîte avec les restes de l'autre Boxer.
Je suis pas sûr qu'il soit mort. Je pense qu'il est cliniquement mort, mais qu'en vrai, ça bouge encore un peu, tu vois.
Il a l'air de murmurer le truc.
En gros, ce qu'expliquent les scientifiques, c'est que comme ils se doutaient que ça allait créer un double. En gros, ils ont mis un explosif dans la bagnole pour se débarrasser d'un des deux doubles, parce que le problème, c'est que si les deux doubles rentrent en contact, ça va détruire le monde, parce que c'est
ça va ouvrir la quatrième dimension.
Voilà, oui. Ça va détruire la quatrième dimension. Ça va ouvrir la quatrième dimension et détruire le monde, parce que deux personnes avec la même âme au même endroit, ça va foutre la merde. Donc du coup, ils ont fait exploser la bagnole pour buter l'un des deux Boxers.
Faut être vraiment très confiant dans sa théorie quand même.
Sauf qu'en fait, ça, c'est l'explication qu'on apprend à la fin du film, sauf qu'ils le disent pas à Boxer, et ils disent plus ou moins que c'est lui qui l'a fait.
On va l'apprendre 5 à 10 minutes plus tard.
Voilà. C'est ça, ouais. Exactement.
Et du coup, Boxer, qui comprend qu'on lui sous-entend qu'en fait, c'est lui qui a tué son double, nous sort une réplique incroyable. Je suis un beau gosse. Et les beaux gosses, ça se suicide pas.
Exactement.
Et là, vous vous dites, non, mais c'est juste une phrase comme ça. Accrochez-vous, les gens.
Elle est dite de manière très intense. Les pauses sont longues.
Non, mais même, c'est surtout.
Je suis un beau gosse.
Elle va revenir plus tard.
Et les beaux gosses ne se suicident pas.
Alors, je me permets, pourquoi j'ai choisi ce film pour ce podcast aussi? C'est parce que ça fait des années que j'utilise cette réplique que j'adore. Cette réplique est incroyable. Surtout en VF, oui. Et que j'utilise souvent en blague, etc. Et que personne d'autre n'a la ref. Et en fait, mon but de cette émission, c'est juste que mes potes aient la ref.
The spread the word. Putain, mais c'est de la propagande.
Gibouette, rends-toi compte que pour une simple ref, tu nous auras coûté notre santé mentale et une chaise. On revient sur Ronald dans la bagnole qui s'était piqué et qui du coup commence à un petit peu déconner. Il a l'air d'avoir déclenché des nouveaux souvenirs. Il a sa main qui se met à briller de mille feux. Du coup, il se dit mais en fait, il peut s'en servir comme d'un radar pour détecter son double. Parce qu'en fait, ça semble un petit peu le guider vers son double. Du coup, ce que je comprends pas, c'est qu'à la base, il était censé aller chercher son double. Et là, leur plan, c'est devenu... Alors qu'il est en train de dire bah, « je peux sentir la présence de mon double, on va aller vers lui », son plan, c'est d'aller au Mexique, maintenant.
Avec son frère.
Ah.
Enfin, ce qu'il pense être son frère. D'accord. Il veut retrouver son frère d'abord, pour ensuite aller au Mexique.
Bon, du coup, Bandana Man se dit bah, « faut quand même qu'on chope de la thune avant de se barrer », donc il va aller à l'ATM le plus proche pour aller tirer du blé. Manque de peau, débit refusé.
Parce que c'est un conscrit. Et que du coup, ils ont bloqué son compte pour éviter qu'il se casse.
Oui.
Pas compris.
Ouais. C'est cohérent finalement.
Non, ça se tient.
Et du coup, c'est pas grave, on va embarquer l'ATM avec nous, on met le treuil de la bagnole dessus, on tire un grand coup et ça part avec nous. Et ils vont se tracter la...
Zéro. C'est juste le truc de la bagnole qui se barre. C'est normalement.
Non mais oui, enfin c'est les États-Unis, tout le monde a une bagnole comme ça, quoi.
Et puis aussi, dans l'épisode sur Eragon, j'avais parlé des vidéos de dodo là sur les canards et tout.
Oui.
Et est-ce que vous avez déjà vu, je passe beaucoup trop d'heures sur YouTube, ces vidéos de gens qui tentent d'ouvrir des distributeurs automatiques pour voir s'il y a encore de l'argent dedans.
Oui.
C'est ultra difficile d'ouvrir un distributeur automatique. Oui. Il y a 4 à 5 couches de métal assez épais qu'il faut y aller à la scie à métaux. Ça peut durer des heures. Et
là, dans le film, clairement, une fois que le truc est arraché, il va râper sur la route parce qu'ils vont pas, ils vont garder attaché au cul de la bagnole.
C'est ça.
Et il va y avoir des billets qui vont voler et tous les gens vont se précipiter pour les ramasser.
Ils étaient moins solides en 2006.
Ouais, puis c'est vraiment le petit pousset parce que, genre, vu que ça fait des flammes sur la route, tu comprends que ça va faire un tracé. Donc, ils auront juste à les suivre pour les retrouver, quoi.
En parallèle. On a le droit à une reprise un peu chelou, je trouve, de l'hymne américain.
Perso, je l'ai bien aimé.
Ah ouais, moi
je pense que c'était le côté un peu dérangeant, justement, d'une Amérique, du coup, qui est un petit peu sad, désœuvrée, trucs comme ça. Donc, on fait quelque chose de, du coup, d'un peu torturé et qui est en espagnol.
Et Cortés, tu veux que je te fasse le lien avec Mulholland Drive ?
Oui, Mulholland Drive.
C'est la même chanteuse.
C'est la même chanteuse.
C'est la même actrice.
Donc du coup, qui fait semblant de s'évanouir, un truc comme ça.
C'est ça. Oh, la scène de la chanteuse
en plus,
d'opéra
la scène est très
dans Mulholland Drive, et ben c'est la même chanteuse que dans Southland Tales.
Et honnêtement, bah du coup, ok, cette actrice là est un lien en plus entre Richard Kelly et David Lynch.
Voilà.
Mais ok, anecdote de fou.
Et du coup, pendant la scène, à part le fait que tous les Américains ont l'air d'être complètement tarés, genre, on dirait un peu une ferveur presque religieuse pour la religion, mais c'est un truc qui m'a toujours gêné chez les Américains par rapport à leur pays, leur hymne et tout. Genre, ils sont là la main sur le cœur et tout.
Ah bah non, mais ils sont très patriotiques.
Oui, là, ils sont
c'est américain.
Ça, flippant.
Mais là,
c'est un truc que je peux comprendre. C'est pas mon truc, mais enfin, perso, moi, je peux carrément comprendre que, vas-y, t'es fier d'être de ton pays parce que ça t'apporte des choses. Enfin,
voilà.
Pourquoi pas?
C'est une croyance comme une autre après.
C'est une culture.
C'est une culture. Pour moi, c'est pas une croyance, c'est vraiment une culture. Ça me choque pas plus que ça.
C'est, en fait, c'est peut-être, étonnamment, la scène de l'hymne américain. Je trouve que justement, c'est une des assez belles scènes parce que, grosso modo, c'est un film qui parle du chaos de l'Amérique. Et la scène de l'hymne, c'est le seul moment où tous les personnages sont rassemblés avec le seul truc qu'ils ont en commun, c'est un peu l'amour de leur patrie, parce que c'est un truc hyper important pour les Américains. Alors après, on peut trouver ça un peu malsain, surtout vu ce qui se passe actuellement avec les conservateurs américains, etc. Et que souvent, et c'est pas que aux États-Unis aussi, c'est dans tous les pays, dans beaucoup de pays, souvent les symboles très patriotiques sont maintenant beaucoup associés, voire exclusivement associés aux mouvements très extrémistes, extrême droite, machin, etc. Ce qui est dommage, parce qu'en vrai, ça devrait pas être un problème. Mais bon, bah, ils sont forts, ces fachos.
Non, mais justement, à l'époque, et puis surtout, bah, t'en parlais au début avec le contexte, mais le 11 septembre, pour les Américains, c'est genre un traumatisme tellement énorme pendant 10 ans derrière. Ils ne vivaient que par ça, et quand tu peux les rassembler un petit peu, ils sont contents, quoi. Genre, c'était chaud.
On est à l'hymne patriotique et on voit Boxer qui arrive dans la foule pour écouter l'hymne La main sur le cœur, comme tout le monde. Il va ensuite, une fois l'hymne fini, confronter la copine du baron, donc la meuf asiate.
C'est ça.
Serpentine.
Serpentine, j'adore son nom.
Serpentine, et du coup, il va vraiment en mode je suis proche de toi, genre un peu gênant, lui demander qui a été engagé pour tuer son double. Donc elle lui apprend qu'en fait, c'était Roland depuis le début. Et que son frère jumeau à Roland, donc Ronald, eh ben en fait, c'est pas son frère jumeau, c'est un double du futur, parce que lui aussi, il est passé dans la faille.
Tintin.
Que au fait, la voiture de Boxer, elle était piégée, avec un truc, avec un explosif qui était censé se déclencher tout seul, et qu'on essaie de lui faire croire qu'il avait lui-même tué son double. Elle lui demande du coup ce qui se passerait si les doubles se serraient la main, donc ceux de Roland et Ronald, a priori. Il lui répond comme ça. « La quatrième dimension s'effondrerait, espèce de pauvre conne !» Et là, il l'embrasse.
Quoi ?
J'adore ce passage.
J'adore ce passage aussi.
Il est génial.
Et c'est pas fini dans le what the fuck, hein, parce que dès qu'il a fini de l'embrasser, il l'a jette par terre et il se casse.
Cette scène me fait trop rire. Et puis vraiment, l'actrice, elle a, j'ai pas noté son nom, elle a une réaction, elle lève les bras en l'air en mode
un peu cartoon.
Ouais. Oui, non, mais pour le coup, c'est vraiment le genre de scène ça, avec la comique. VF, c'est la petite pointe par-dessus, t'es là genre waouh.
On point.
Du coup, on repasse de nouveau sur le plan de, alors cette fois-ci, Roland du camion à glace, donc Roland le dormeur. Il y a Highlander avec lui. Christophe Lambert, pardon, il a globalement 3 secondes d'écran pendant lesquelles il dit...
Il conduit.
Non, il dit, Roland Taverneur, ça va? Et là, il meurt. Vraiment, c'est... Il meurt pourquoi? Parce qu'en fait, il vient de se manger l'ATM qui traînait à l'arrière du camion de l'autre Roland. Et c'est ainsi que les deux Roland vont peut-être se rencontrer.
Les probabilités vont se faire foutre.
J'en ai marre.
Il faut terminer ce film.
Voilà comment s'achève le monde.
Avec un ATM.
L'argent, c'est mal.
Oh là là.
Donc au fait, manque de peau, bah, là où ils sont tapés, en fait, c'est un peu la révolution néo-marxiste. Donc ça tire de partout dans la ville. Le Roland du camion à glace, il se relève et il se met à tirer au pif dans la foule. Genre, il fait gauche, droite, milieu. Quoi,
oui, hein, bah, en fait, comme il a passé son temps à dormir, en fait, lui, il connaît pas trop le contexte de ce qui se passe, quoi. Enfin, donc oui, il tire sur des gens.
Du coup,
il se
le
prend
Roland,
une balle dans l'œil.
Il se prend une balle dans l'œil, mais on voit pas trop au début. Enfin, on voit juste qu'il.
Ah, oh, on devine bien.
Il se fait tirer une balle qui tombe à terre et il y a l'autre Roland qui essaye d'aller le secourir. Courir en se mettant à tirer lui aussi au pif de la même manière, on voit qu'ils sont du même
Donc ce sont la même personne.
Oui.
Oui. On sait pas encore. Mais il y a, c'est toi qui m'as fait cette remarque-là. Il y a ce moment absolument fantastique. Donc les néo-marxistes lancent la révolte et Bandana Man et Roland Flick arrivent.
Ils sont cachés derrière leur voiture.
Ils sont cachés derrière leur voiture. T'as le camion de glace qui est craché.
Et là t'as un vieux clodo qui se ramène et qui met un fusil d'assaut dans les mains de Bandana Man qui est là quoi.
Et vraiment en mode
genre
random.
C'est presque hors champ. C'est presque hors champ.
Ouais, non, mais c'est.
Putain, j'avais pas vu.
Très, très drôle.
C'est subtil, mais incroyable.
Ah ouais. Pam, pam, boum, boum, ça tire un peu de partout. D'ailleurs, pendant que Roland va sauver son frère Roland, qui est son lui du futur, tu as effectivement Bandana Man qui tire un peu partout. Tu as Christophe Lambert qui a encore quelques secondes d'apparition. Vas-y, Christophe, tu peux le faire pour donner un énorme lance-roquette à Bandana Man. Roland et Roland sont acculés dans le camion à glace de Christophe Lambert. Nous avons ensuite le dénouement dans le méga zeppelin où nous avons le retour de Christa qui... Cette fois-ci, elle est brune.
Je comprends plus rien.
Avec ses autres copines stars du porno avec qui elle fait des débats à la télé, qui arrive du coup sur la scène où il y a eu l'hymne national pour faire une danse, autre moment clip show un petit peu du film, qui commence à faire des danses langoureuses. Tu as The Rock qui arrive avec son flingue pour tout niquer, pour tout péter.
Non, il a pas son flingue à ce moment-là.
Non,
c'est juste qu'il vient sur scène, il la rejoint sur scène pour danser
c'est vrai.
Avec elle. Mais la femme de boxeur aime pas du tout ça.
Oui.
Et donc vient aussi.
Et danse.
Il y a un moment. Avec lui, et il y a un moment très gênant où juste il est entre les deux meufs qui se tiennent les mains et dansent tous les trois ensemble.
Avec, la réflexion du sénateur en mode, mais ils sont en train de faire une partouze ou quoi? Genre, vraiment, une orgie, c'est ça.
Ce sera le point polyamour du podcast.
N'est-ce pas, Tine?
Et tout ça sur, donc la musique, c'est du Moby.
Oui.
Qui a été le premier artiste contacté lors de la production du film.
Je pensais que c'était Portishead, comme que je te
disais. Richard Kelly voulait absolument qu'il y ait du Moby dans son film.
Ça me fait tellement rire parce que tous les trucs en 2006, ça parle de Moby, on l'a tellement oublié après, c'est formidable.
Ah non, moi je l'ai pas oublié, j'adore Moby, j'adore Esquisse.
J'avais jamais écouté un son de Moby en genre tapant vraiment au Moby musique, tu vois.
Putain, mais
jamais
c'est,
quoi.
C'est un album, mais c'est un album. Ouais. Incroyable,
Après, c'est l'électro, j'écoute pas tant de.
Oui.
En parallèle de la danse langoureuse sur scène, il y a donc les Roland qui vont se serrer la main, et nous avons aussi en parallèle l'entreprise donc USI Dent qui se fait attaquer par du coup le groupe terroriste néo-marxiste.
Les
néo-marxistes dirigé par Fortunéo, et nous avons la confrontation, c'est très vite dit, entre la chef de USI dans son bureau et Fortunéo et le punk à l'iroquoise bute la méchante.
C'est ça.
Ensuite, après cette danse, nous avons une sorte de prise d'otage faite par Boxer qui sort son flingue. Et qui, alors je sais plus pourquoi il veut se suicider. Non, pourquoi il menace de se suicider déjà?
Parce qu'ils veulent, en fait, ils veulent faire un test de mettre en contact Boxer avec son cadavre.
Ah ouais.
Pour voir ce que ça ferait.
Ah
et
oui,
du
d'accord.
Du coup, s'ils se suicident, ils peuvent pas.
Et ils peuvent pas. Donc nous avons cette prise d'otage. Ensuite, nous avons, attention, accrochez-vous bien. Nous avons les deux Roland qui se font face à face. Roland avec une balle dans l'œil et Roland Flick se regardent. Leurs mains se brillent et ils décident
C'est ce qu'on appelle un échange de fluide.
Oui.
Du karma fluide.
Faut tenir bon.
En vrai, c'est fort possible que ça soit un échange de karma fluide pour une bonne raison. Roland, c'est un ancien militaire et on a appris que les militaires avaient été drogués au karma fluide. Donc ça se trouve, c'est logique.
Ah non mais oui, mais je pense que c'est carrément ça. C'est pour ça que ça brille.
Franchement là.
Ah oui,
on est tous choc bar là.
C'est daily choc bar de
baiser. Moi j'étais juste en mode c'est de la SF hein.
Oui, ta gueule, c'est magique. Hein.
Oui, non, mais.
Il se serre la main. La quatrième dimension commence à s'ouvrir. Le camion glace s'envole vers les cieux. Arrive au niveau du méga zeppelin. Bandana Man, pour une raison que l'on ignore, vise le méga zeppelin avec son lance-roquette. Tire et explose le zeppelin. Mais juste avant ça, nous avons le tatouage de Boxer, son tatouage de Jésus que nous avions vu au tout début du film, qui commence à suinter du sang, qui commence à briller du sang. Bandana Man a réussi à exploser le méga zeppelin. Il fait tomber son lance-roquette, il se suicide, il se jette dans le vide. Et nous avons des dernières révélations sur qui est Roland et qui est Ronald, pendant qu'il se serre la main, nous apprenons donc que Roland a fait un tir fraternel sur le personnage de Justin Timberlake. C'est pour ça d'ailleurs que le personnage est a une énorme cicatrice balafre sur le visage. Nous avons les derniers mots du narrateur. Oui, parce que pendant tout le film, il y a de la narration encore, hein, ça ne s'arrête jamais. Et donc, nous avons les dernières paroles de Justin Timberlake, où il parle de son meilleur ami qui l'a trahi, tir fraternel. Et nous avons le retour de la phrase « L'agent Ronald Taverner est un beau gosse, et les beaux gosses ne se suicident pas. » Générique ! C'est la fin du film.
Voilà ! On sait pas ce qui va se passer après.
Je me permets d'ajouter 2-3 choses par rapport à ça. Alors, en gros, le tatouage qui saigne de Jericho Kane slash boxeur Santaros.
Parfait.
Très bien. Merci.
Boxeur, c'est le Messie.
Oui.
Boxeur, c'est la figure christique du film, c'est le prophète, c'est le prédicateur qui annonce la fin du monde. Donc voilà, on rentre bien dans les clous. Est-ce que vous avez compris le symbole? Voilà.
Est-ce que c'est bon pour vous?
Exactement. Le coup de Roland, on apprend que c'est lui qui a blessé Justin Timberlake. En fait, on a un vague indice au début du film où on entend une voix qui dit que le personnage de Justin Timberlake, je suis désolé, je suis chiant sur les détails, hein.
Oui.
Le personnage de Justin Timberlake a été blessé par un allié.
C'est vrai.
On sait pas qui. Et là, on apprend que c'est Roland, qui, pourquoi il est un peu mutique, un peu déprimé, c'est pas que à cause du voyage temporel et de tout ce qui s'est passé, c'est aussi parce que, en fait, comme pilote, c'est un traumatisé de la guerre en Irak.
C'est ça. Et lui, en plus, il a une espèce de culpabilité, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de métaphore symbolique où tu as Ronald Flick qui parle à Roland avec une balle dans l'œil, où c'est clairement un parallèle de « je te pardonne ». En plus, il le dit, genre « tu étais mon meilleur ami, l'agent Taverner et tout ça, je te pardonne ». Et en fait, il a ce côté traumatisé, j'ai tiré sur un allié.
Et que c'est jamais explicitement dit, mais que probablement parce qu'il a fait subir à Pilot, qui était probablement son pote, qui est peut-être un truc qui est dans les comics, ça se trouve, là j'en sais rien, il a probablement songé à mettre fin à ses jours, et qu'en fait il l'a pas fait. C'est pour ça qu'il empêche Bandana Man de se suicider dans la voiture, inconsciemment sans le savoir.
Comme une sorte de
parce
rédemption.
Que c'est un beau gosse. Et que les beaux gosses ne se suicident pas. Et voilà les gens, c'était laborieux, c'était Southland Tales.
C'était long.
Comme c'est moi qui ai choisi le film, je m'excuse vraiment si vous ne comprenez rien à ce qu'on a raconté. N'hésitez pas à écouter l'épisode en 2 parties. C'est fait pour ça qu'on coupe chaque partie. Bref, maintenant c'est l'heure de discuter un peu tous ensemble de qu'est-ce qu'on a pensé du film. Il me semble que Manon, Cortez, vous aviez pas mal de choses à dire là-dessus.
Alors, je vais commencer par ce que j'ai bien aimé du film. Donc alors, il y a un très bon casting. Ça, franchement, indubitable, on en a parlé pendant le résumé, mais les acteurs jouent très très bien, c'est assez cool à regarder. Il y a des plans très cool. Les scènes musicales, en vrai, ne m'ont pas déplu. Elles servent à rien, mais elles sont là. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai aimé dans le film. J'ai passé un très mauvais moment, c'est-à-dire que vraiment, bon moi la SF pour le coup j'ai quand même pas mal de mal, mais voilà, je me prête au jeu, je regarde le film sérieusement, tout ça. J'estime n'être pas stupide comme personne, mais là franchement je me sentais débile, je n'ai rien compris de ce que j'ai regardé, c'était laborieux, je n'aime pas le fait qu'il faille 10 000 heures de recherche pour comprendre un scénario. Et juste, c'était chiant. En fait, j'ai presque pas grand-chose à dire parce que juste, j'aime bien regarder les films un petit peu intellectuels, machin, où tu te creuses. J'ai pas besoin de poser le cerveau quand je regarde quelque chose. Mais là, je ne vois même pas l'intérêt, d'autant plus qu'au final, bah comme j'ai dû, je sais pas si ça a été gardé au montage pendant l'épisode, mais en fait, même le twist final, je l'avais pas tant capté que ça, tellement je suis indifférente de l'histoire. Les personnages, je suis pas attachée à eux. Il y en a trop. C'est flemme. Flemme. Franchement, mon avis, c'est flemme de ce film.
J'ai plein de choses à dire sur ce film, mais pour rester dans la généralité, en gros, je connais pas mal de personnes quand ils parlent d'un film, quand ils résument un film ou un truc comme ça, qui disent oh là là, c'est cousu de fil blanc, oh là là, le méchant il est très très méchant, oh là là, on n'avait pas vu venir et tout ça. Pour ces gens-là qui disent ah non, mais les scénarios c'est tout le temps les mêmes, je leur offre some flam tades.
Ah oui.
Ah bah là, vous voulez être surpris, vous voulez ne rien comprendre, ok, allez-y. Est-ce que pour autant le film est bon? Non. La réelle est très bonne. J'aime effectivement les acteurs sont investis de fou et ça fait plaisir. Et je pense qu'on peut en parler parce qu'on s'est retenu depuis le début. Le casting VF.
Oui,
incroyable.
Le casting VF, il est absolument délicieux. On balance quelques noms. On avait effectivement évoqué Emmanuel Curtil. Il y a aussi donc Christophe Lemoine. On a Féodor Atkin qui est le doubleur de Jafar ou de Dr House, par exemple.
Ou de Jeremy Iron dans Eragon. Souvenez-vous l'épisode.
Oh là là, putain, le teasing. Pour Sarah Michelle Gellar, si vous avez vu Friends avec Rachel ou si vous avez vu les Scooby-Doo en VF, c'est donc Claire Guyot, celle qui fait cette voix-là. On a plein de trucs. Et moi, personnellement, Emmanuel Curtin qui fait la narration, mais pour moi, c'est ce qui m'a permis de continuer le film. En fait, c'est vraiment la VF qui m'a un peu sauvé du film, quoi. Il y a Laura Prégent, il y a Gérard Rinaldi. Alors, Gérard Rinaldi, c'est à la base le chanteur des Charlots, un groupe des années 60. Et l'un des derniers trucs qu'il a doublé, bah, je crois que c'est ce film-là, mais sinon, quelques années avant, il avait doublé Le Choix Peau Magique dans Harry Potter.
D'accord.
Après, pour l'histoire de la VF, et justement, vous me direz si c'est que moi, mais en fait, je trouve qu'elle te sort trop de l'ambiance que le film essaie de te vendre. Et en fait, j'avais vraiment des moments où, bah, effectivement, la scène attirait mon intérêt parce qu'il y avait des dialogues assez drôles, mais j'avais tellement l'impression que c'était genre une scène par-ci, une scène par-là, une line, un machin. Je me suis dit, le film donne quoi en VO? Et j'ai tellement payé la foi de remater le film en VO, de télécharger le film, de machin. J'étais genre non.
De te procurer le film,
oui,
évidemment,
de manière, la cassette de ton oncle.
De manière très très légale, j'aurais acheté. Non, j'aurais jamais acheté ce film. Franchement, non.
Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que t'as commencé à dire, enfin, on s'attache pas au personnage. Moi, je suis désolé, à la fin, Boxer, je l'adorais. Il était trop mignon, tu vois, avec ses petits doigts et tout.
Non, il est forcément en fait, attachant. En fait.
Il est attachant et il est du père comme toi. Et ça, je trouve ça. Enfin, comme toi, comme moi, quand tu le regardes.
Ouais, mais est-ce que tu es sûr que t'es attaché à Boxer ou pas à The Rock, en fait? Parce que moi, effectivement, encore une fois, les acteurs, vraiment, je les ai trouvés géniaux. Il n'y a pas de souci. Bah, mais le personnage ne m'inspirait rien.
Après, tu sais, tu aimes des films parce que tu retrouves des acteurs que t'aimes bien. Même dans un film de merde, ça fait toujours plaisir de voir un acteur que t'aimes.
C'est ça. Et moi, il y a un truc que je me suis rendu compte en matant le film que j'ai trouvé génial. C'est que ça fait des années que je me dis j'adorerais voir un film qui place plein de fusils de Tchekhov sans les utiliser. Et bien c'est ce film. Et donc je trouve ça génial qu'il l'ait fait. Je suis donc maintenant sûr et certain qu'il ne faut pas du tout faire ça. Mais en vrai, je me suis marré. Et ce qui est marrant, c'est que la dernière heure du film, j'ai littéralement débranché mon cerveau et j'ai commencé à comprendre, à me marrer et à me dire bon, en fait c'est trop bien. Parce que c'est trop drôle.
Ouais, je peux comprendre. Je pense juste que vraiment, je suis pas la target audience. Je suis passé à côté du film. Quoi.
Le point qui me manquait et que j'aurais dû, c'est de ma faute, j'aurais dû un peu plus me renseigner avant de commencer le visionnage, c'est qu'effectivement, c'est un film qui se veut comique. Et en fait, je serais parti dedans en me disant, bah, de toute façon, le but c'est de déconner et de se marrer. J'aurais peut-être passé un meilleur moment sur le début, parce que le début, j'ai beaucoup galéré, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de mater? Et quand je commençais à me dire, bah, vas-y, de toute façon, nique sa mère, c'est n'importe quoi, j'ai commencé à vraiment passer un bon moment.
Par rapport aussi au casting, moi, je pense surtout à Dwayne Johnson, pour le coup, parce que...
Il est génial.
En fait, on est dans un rôle qu'on n'a pas l'habitude de le voir dedans, et vraiment le fait qu'il joue un personnage très vulnérable, très influençable, c'est tellement pas...
Presque
une image qu'on a l'habitude de voir de
presque
lui.
Presque enfantin.
Enfant avec
vraiment,
ses petites
mains. C'est un petit bébou, hein, vous l'avez dit plus tôt. Mais...
Et vraiment, je me dis, putain, c'est con parce que qu'est-ce que ça aurait été sa carrière s'il n'avait pas joué tout le temps les mêmes personnages, en fait.
Ouais.
Non, c'est vrai. Et juste pour rebondir sur ce truc-là, par rapport à Dwayne Johnson, j'aime beaucoup le fait, effectivement, on avait dit que les personnages sont aux antipodes de ce pourquoi on les connaît. Et j'adore, vers la fin du film, où on donne un flag à Dwayne Johnson, et t'as le film qui dit « Ok, ça va être le climax, t'inquiète, ça va partir en baston. » Pas du tout. Dwayne Johnson ne se bat jamais du film.
Le
jamais.
Truc le plus extrême qu'il fait, c'est menacer de se suicider.
Voilà.
Et alors, d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un truc. Le film a des répliques à crever de rire.
Oui.
Et en vrai, sans s'en rendre compte, on a passé tout le podcast à revenir dessus. Les beaux gosses ne suicident jamais. Christa, c'est la personne qui astique le mieux au monde.
Attends, il y avait
on
quoi aussi
On a oublié de mentionner que c'était dit au dernier moment.
Je l'avais noté. Ouais. La dernière phrase qui mentionne Christa, c'est le fait que ce soit la meilleure astiqueuse.
Voilà.
C'est génial.
Mais c'est comme aussi Christa, quand il résume le scénario, en mode « D'après les scientifiques, le futur va être plus futuristique qu'on ne l'avait pensé. »
Mais oui, et puis il y a plein de trucs complètement improbables. Donc Christa qui a toute une marque de bijoux, de boissons, et à un moment qui boit dans sa propre canette,
c'est
avec
vrai.
Son visage dessus.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Fantastique.
Qui manque manque un peu, c'est effectivement, c'est dommage qu'on doive, on doive se mater trois bouquins pour comprendre un peu plus dès le début. Mmh. Et je pense que on n'aurait pas eu l'explication de JB, ça serait peut-être, peut-être un peu plus compliqué.
Ah, clairement.
Moi, je, au final, je, une certaine personne présente à cette table me l'avait vendu comme un film qu'il fallait essayer, dont il fallait essayer de comprendre le scénario, un peu comme un film que je vois régulièrement les samedis, qui est notoirement difficile à comprendre dans son scénario. Et je l'ai vu un peu comme un défi, et c'était un peu... je m'attendais à ce que ça soit compliqué de base. Donc, j'étais pas surpris d'une mauvaise manière, et en fait, ça m'a fait un peu marrer, quoi. C'était n'importe quoi du début à la fin. Je trouvais ça drôle. Moi, après, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, Cortez, par rapport au... à ces gens qui ont envie de sortir des sentiers battus.
Oui, c'est ça. Genre, tu sais, quand ils disent « Ah là là, par exemple, je sais pas, il y a un truc avec les gentils, les méchants, en mode « Ah là là,
le scénario soit prévisible,
ah bah il y a un love interest, ces trucs comme ça. » Oui, mais c'est des fonctions, en fait.
Ouais, mais je crois que, en fait, je suis ce genre de connard à qui tu pourrais conseiller ce genre de
d'accord,
parce qu'en
je
fait,
vois.
J'aime me faire du mal, je crois, avec les films. J'aime bien un petit peu ce truc. Tu vois, genre... Il est chelou, il est raté. Sur pas mal d'accès, il est raté. Mais en fait, c'est là-dedans que tu trouves des trucs qui sont incroyables. Parmi des tonnes de caca, tu as dedans des petits diamants.
Ah oui, bien sûr.
Et moi, j'aime beaucoup plonger mes doigts dans le caca.
Bah c'est pour ça.
C'est des diamants. J'espère que vous avez cette image.
Une image incroyable.
Il y a un cataphile et scatophile.
Cataphile.
Ah mon Dieu. Mais en fait, je comprends, mais ce genre de film, de toute façon... globalement je l'ai pas aimé, je rentrerai dans le détail plus tard, mais globalement je l'ai pas aimé, mais par contre je sais que je ne l'oublierai jamais parce que les répliques sont à crever de rire, les situations sont bordéliques as fuck, et moi je n'avais aucune info quand j'ai démarré le film, quand j'ai appuyé sur play et au bout de 5 minutes avec le résumé j'étais en mode putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça, et par contre ça, cette sensation là de qu'est-ce que je regarde ? Je l'aime bien aussi.
Ça, j'adore.
Je l'adore aussi.
Et pour autant, pareil.
Mais c'est frustrant. Après, il y a 2h24.
Oui, c'est un peu long. Ça, c'est horrible. Ouais. Mais du coup, ça fait un film que j'aime pas forcément trop, mais que je re-regarderai quand même, tu vois. À condition de torturer des gens par la même occasion.
Ce qu'a réussi à faire JB.
Voilà, exactement.
Exactement.
Je ne vais que faire perdurer le supplice.
Pour le coup, là, c'est mes goûts personnels. J'adore quand un film me prend et me balance dans son histoire et je capte rien. Genre, c'est mes meilleures expériences de cinéma, enfin ma meilleure expérience de cinéma, c'est quand je suis allé voir Réalité de Dupieux. On va pas essayer de vous raconter Réalité.
Oh non, mais il est génial.
Parce que oui, c'est un peu dans le même genre, c'est inracontable. Mais en fait, c'est des films où, alors ça veut pas dire que je déteste les films cousus de fil blanc, etc. Parce qu'en effet, c'est des fonctions. Après, est-ce qu'elles sont bien utilisées ou pas?
Toujours l'effet Star Wars est cliché au possible, mais bien écrit. Eragon a les mêmes clichés, c'est mal foutu.
Exactement. Même si j'avais envie de le sauver finalement pour plus l'aspect effets spéciaux, etc. Bref. Et Southland Tales, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je marre. Et pour moi, ce qui le sauve, c'est l'aspect comédie. Et en fait, ce qui me fascine avec ce film, parce que du coup, vous finissez par vous en rendre compte, ce film me fascine, c'est ce côté patchwork, cette sorte de créature où ils ont balancé, il a essayé de mettre trop de trucs. T'as l'impression qu'il a complètement perdu le contrôle. Et je lisais un article sur écran large, il me semble, qui racontait en fait le fait que, en gros, ce que Richard Kelly a voulu faire, c'est que Richard Kelly, avant ça, il fait Donnie Darko. Ouais. Donnie Darko, pareil, on est dans pas mal quelque chose de difficilement digeste, mais qui a assez rapidement eu ce phénomène culte. C'est-à-dire, première diffusion à Sundance, donc gros festival de films indépendants, mmh. Il se fait démolir. Et finalement, il arrive à avoir cet engouement culte qu'il fait. Et l'article, et j'étais complètement d'accord avec ce qu'il disait, Richard Kelly a voulu faire avec Southland Tales, il a voulu prévoir ce que Donnie Darko a fait. C'est-à-dire, en fait, il a voulu anticiper que les gens ne biteraient rien, mais arriveraient à comprendre le truc, et du coup, le film deviendrait culte. Ce qui est un peu arrivé, mais en fait, pas vraiment, parce que, à part, quand je dis un culte de fans, c'est vraiment minuscule par rapport à Donnie Darko, qui a vraiment eu un gros succès critique a posteriori.
Il a essayé de provoquer le hasard de Donnie Darko, en fait.
C'est ça.
C'est pas qu'il a voulu reproduire, c'est qu'en plus, il y a les mêmes thèmes. Après avoir regardé Southland Tales, quand j'ai vu que c'était Richard Kelly, Donnie Darko, je fais « Oh putain, Donnie Darko !» Je l'avais vu qu'une fois, il m'avait laissé un bon souvenir, et vas-y, je le remate. Et je l'ai rematé, et c'est vraiment Southland Tales mais maîtrisé et beaucoup plus digeste. Alors et encore une fois, j'avais vu Mulholland Drive quelques semaines avant et si vous aimez les films à énigmes, parce que moi j'appelle ça des films à énigmes, pas comme un thriller où en fait tu essaies de comprendre le scénario, non, là t'essaies de comprendre le film, là t'essaies de comprendre ce qui se passe. Si vous êtes curieux des films à énigmes, si vous ne savez pas par quelle porte rentrer, je pense que Denis Darko est un bon début. Parce que déjà, dans Denis Darko, on suit qu'un seul personnage, Denis Darko. Il y a des mentions de la fin du monde. Je regarde mes notes parce que voici les notes que j'ai prises de Denis Darko. Tout ce qui est entouré, c'est ce qui ressemble à Southland Tales. Voilà.
Quasiment toute ta page, en fait.
Quasiment toute ma page. Il y a la mention de la fin du monde. Il y a les pauses musicales, mais que je trouve beaucoup plus maîtrisées dans Denis Darko et qui sont plus pertinentes parce que c'est des musiques de post-punk et de new wave. On a du In Excess, on a quoi, du Cure, on a Killing Moon, de tout ça. Et en fait, ça donne l'aspect un peu dépressif, ado de Denis Darko. Donc, on a vraiment cette ambiance-là. On a la mention de quoi d'autre? Il y a quelques acteurs qu'on retrouve dans Southland Tales qui étaient dans Denis Darko. La dénonciation de la société. On parle de taxes, on parle de famille, on parle de politique, on parle de tout ça. On a un personnage observateur omniscient, le personnage d'Emmanuel Curtil et le lapin dans Denis Darko, qui est la créature fantastique. On a du fantastique, on a des voyages dans le temps ou des dimensions spatio-temporelles. Mais tout ça est tellement plus digeste dans Denis Darko, tellement plus aussi sensé, parce que là, pour le coup, si Southland Tales est une comédie un peu ratée, en tout cas, c'est sûr, Denis Darko est un drame, et un très bon drame. Vraiment, les personnages sont attachants, c'est bien écrit. Il y a aussi des phrases de fou, il y a aussi un casting de malade, on a quand même Drew Barrymore et on a Patrick Swayze dans son dernier rôle, et plein de mélanges de genres. Donc, honnêtement, ça, en fait, après avoir passé la surprise du « Waouh, mais qu'est-ce que je viens de voir ?» Ben en fait, ce que t'as vu, c'est un film qui existe déjà et en moins bien. Et c'est là où j'ai commencé un peu déchanter sur le film de Southland Tales.
Je suis pas d'accord, parce que j'ai vu Denis Darko, il m'a marqué, je l'ai adoré. Le fait est que c'est un film que j'ai toujours pas revu, parce que je l'ai vu il y a 4-5 ans maintenant, et j'ai envie de le revoir, et je l'ai toujours pas revu. Parce qu'il y a une ambiance très sombre c'est pas trop mon délire, c'est pas trop mon kiff. Quand Southland Tales est drôle, et je me marre bien devant. Ah oui, et c'est un film, tu vois, que je me remettrais bien pour me marrer.
Denis Darko, ça fout un peu le cafard.
Ouais. Oui, c'est ça. Alors que Southland Tales, moi, j'aime pas trop les trucs qui donnent envie de crever. J'ai souvent envie de crever. Donc, tu vois, c'est le côté marrant. Par contre, c'est vrai que le problème de Southland Tales, c'est que je pense que t'enlèves une demi-heure en enlevant quelques persos et quelques petits trucs en plus qui étaient franchement pas utiles. Ça peut être pas mal, mais Southland Tales, je trouve qu'il est vraiment cool.
J'aimerais revenir sur l'aspect comédie du film. Donc, je l'ai dit plus tôt, mais effectivement, il y a beaucoup de punch qui m'ont fait rire, tout ça. Vous n'arrêtez pas de dire que c'est une comédie. Non, c'est pas une comédie. Enfin,
alors, c'est une satire.
C'est une satire.
Ouais, putain, mais c'est lourd, quoi. C'est pour que moi, je dise qu'un film est lourd.
C'est un truc où je me suis dit, mais en fait, parfois, on sait plus s'il veut être une comédie, s'il veut être sérieux, parce que, par exemple, tous les passages de Timberlake, il est vraiment très sérieux, très. Et en fait, là, tu te dis, c'est un film sérieux. Et puis juste après, ils disent une comédie, je fais, du coup, c'est une comédie. Et en vrai, moi, j'aime bien ce ping-pong où ça varie. Et du coup, je sais pas, j'aime beaucoup le petit dancey du comique.
C'est un peu ce que j'ai essayé d'appuyer à un moment, là, sur la première scène dont je parlais. En gros. T'as vraiment d'un côté le républicain en mode technocrate à balles et en face, vraiment dans le cliché absolu, tu vois. Et en face, l'autre cliché absolu qu'on voit aujourd'hui partout, du wokiste, l'islamo-gauchiste, machin, truc. Enfin, c'est de la satire, c'est pas forcément drôle et c'est pas forcément subtil. Enfin, ça, je sais pas ce que ça apporte, quoi.
En fait, je pense que c'est donc 2006, on est d'accord, le film
sortie, 2006 ouais. À Cannes,
2006,
ouais.
2007. On est vraiment sur une période où les films aux US tentaient, c'est un peu la fin, je pense, année 2010, ça doit être vraiment la fin des vraies comédies américaines un petit peu what the fuck. Et ça, je le retrouve dans ce film. Il y a un côté, c'est bien ancré dans son époque, je trouve, mais ouais, c'est raté, c'est vraiment, mais j'en ai vu tellement des films comme ça de cette époque, et là, pour moi, c'est de la branlette intellectuelle qui se veut un petit peu deep et un petit peu « Oh là là, on est transgressif, regardez, on fait de l'humour sale. »
C'est pas du Nolan non plus.
Ouais, mais Nolan, au moins, il reste dans son genre. Là, c'est ça ne veut pas choisir de genre, et ça m'énerve.
Pour le coup, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est Richard Kelly a voulu trop en faire. Il a perdu le contrôle de son projet par rapport à Denis Darko. Ça, vraiment, il y a une différence de maîtrise qui est perdue. Mais En fait, là où, encore une fois, ce film me fascine, c'est, je trouve qu'il reflète tellement bien cette époque. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de voir les États-Unis.
Oui, tout
alors,
à fait.
C'est exacerbé, c'est exagéré, c'est pas bien fait, tu comprends rien, mais... moi j'adore, j'ai une fascination pour les films des Américains des débuts des années 2000.
Bah, je comprends
notamment
tout à
un
fait,
de mes films préférés qui est La 25e heure, qui est probablement le meilleur film post 11 septembre de l'histoire.
Edward Norton.
Avec Edward Norton dedans. Et en fait ce film m'a rappelé ça, vu qu'il utilise énormément le contexte de l'attaque terroriste. Bon là c'est une bombe nucléaire, c'est pas les deux tours, mais on est un peu dans le même genre. Et Los Angeles, qui est le cinquième personnage du film. En fait, tu prends les quatre personnages principaux, t'enlèves tous les personnages secondaires. En fait, l'autre gros personnage, c'est LA, c'est la Californie. Ce truc complètement fou où les néo-marxistes combattent le gouvernement. Ça n'a aucun sens. C'est coloré. Il y a des actrices pornographiques qui font un talk show qui parle de la guerre, de la famille, de machin. Et c'est tellement américain, c'est tellement absurde, c'est trop. Ce film en fait trop, comme on a souvent de notre point de vue. On peut trouver que l'Amérique, on fait toujours trop, surtout. Et du coup, j'avoue que moi, c'est un truc qui m'a énormément marqué.
J'ai juste un truc à dire qui n'aura pas grand intérêt. J'ai compris pourquoi, en fait, le film s'ouvre sur le chapitre 4. Parce qu'en fait, quand tu vois tous les trucs de résumé de médias, et ben en fait, t'as le chapitre 1, 2 et 3 dans
oui.
le début.
Tu sais pourquoi ? Parce que les chapitres 1, 2 et 3...
Non, c'est les comics.
C'est le tome 1, le tome 2
bien
et le tome 3.
Les comics,
en gros, les comics... En fait, Richard Kelly, il a voulu faire comme Star Wars. 4, 5, 6. Sauf que...
Il a commencé par le 4. Okay.
Sauf que, on aime ou pas Star Wars 4, 5, 6, ils se suffisent à eux-mêmes. Tu n'étais pas obligé d'avoir vu les préquels pour comprendre le 4, 5, 6. Le problème, c'est qu'avec Southland Tales, bah, c'est un peu raté. Enfin, un peu. Le mot est faible.
Tout petit peu.
Le mot est faible.
Un chouïa. En fait, effectivement, je reviens sur le côté il a perdu le contrôle. Pour moi, ce film-là, c'est aussi un symptôme intéressant d'un réalisateur qui arrive un petit peu de nulle part et qui te sort un ovni comme Denis Darko et qui, évidemment, au début, a un rejet parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement hors des sentiers battus, mais qui ensuite a un statut culte et un statut culte assez vite. Denis Darko, c'est quand même un film culte début des années 2000. Et après, je pense que Hollywood, la presse et les médias a encensé Richard Kelly en le prenant comme le nouveau David Lynch, moi honnêtement, et qu'il a eu trop de pouvoir, donc c'est pour ça que je reviens sur le mot que j'ai choisi, et c'est quand même un peu drôle que son scénario dans le film s'appelle Pouvoir, parce qu'on lui a donné plus de thunes, plus d'acteurs, plus de tout, et que finalement, il a pas su quoi en faire. Il l'a mal fait. Il l'a mal géré.
Et en vrai, pas tant que ça, parce que, alors pour le coup, là, c'est les petites anecdotes de tournage. Bon, déjà, le film coûte que 17 millions.
Oui. Et c'est en plus gros, que Denis Darko.
Il sort à Cannes, et en gros, quand Richard Kelly propose son film à Cannes, il s'attend pas à être sélectionné. Sauf qu'il est sélectionné parce que Denis Darko fait ouais. qu'il est sélectionné, sauf que le film il est pas fini. Donc du coup, d'où le fameux commentaire des sous-titres en décalé, etc. Les effets spéciaux étaient
ça,
pas
c'est
terminés.
C'est hilarant le truc des sous-titres, par contre, vraiment.
Voilà, le film s'est fait allumer et en gros, techniquement c'était la mort du film. Et en fait, il y a Sony, alors je sais pas pour quelle raison, mais en gros, Sony a mis un peu de billets pour juste permettre de finir les effets spéciaux, pour financer les effets spéciaux en disant, par contre, t'enlèves 20 minutes de ton film. Donc, ça veut pas dire que la version Cannes est une director's cut, mais parce que voilà, Richard Kelly, il est un peu fou à cause
c'est
de
ce film. C'est la V1, en fait.
Ah,
et,
bon.
et il est en mode, non, mais c'est deux projets inaboutis, ni l'un ni l'autre. Mais à la fin la période de remontage des 24 minutes enlevées, ils ont dû retourner certaines séquences, il a dû refaire revenir Justin Timberlake pour refaire des voix off, il y a des étudiants en cinéma qui ont aidé au montage, c'est-à-dire il y a des gens qui ont terminé bénévolement ce film parce qu'ils avaient plus de thunes pour faire quoi que ce soit parce que ce film est trop gros.
Ça, oui.
Il est trop gros pour ce qu'il voulait être.
Mais trop gros pour un seul homme aussi.
Et pour moi, c'est ce qui en fait sa qualité parce que en fait le fait que ça soit un film un peu fauché, 17 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Pour ce rendu désastreux, disons-le quand même, je sais pas, c'est... Moi, ça me parle. Voilà.
Non, mais en plus, vos arguments, ils sont géniaux. Hein.
Ouais.
Genre, honnêtement, genre, je suis très content d'avoir fait cet épisode parce que, bon, déjà, au niveau de la compréhension du scénar, tout ça, ça te pousse un peu à suivre le fil et tout, c'est cool. Et même les anecdotes... Tout ce que vous dites est vrai, mais Enfin, ça rend pas la lecture agréable, je trouve.
En fait, je pense qu'on arrive dans le cas spécifique où, quel que soit l'argument bon ou mauvais, à quel point il est bon ou mauvais, ça devient juste du goût personnel, quoi. Ouais. Et soit on rentre, soit on rentre pas.
Ah bah le
et,
film est extrême, hein.
Et ce film-là, truc. Vraiment, on n'a pas le choix.
Et une question d'expérience, Galien, t'as soulevé un truc hyper intéressant, c'est que en fait, j'étais un peu préparé au film, et du coup, c'est peut-être cette préparation qui, au-delà, en fait, tu te rends compte que ce genre de film, ça te parle un peu, même s'il est pas bon, mais que du coup, la préparation, en fait, c'est l'expérience. En fait, ça t'a donné une expérience spectateur où t'étais un peu préparé, tu savais pas trop ce que c'était, tu savais juste, je crois, la réplique des beaux gosses que je t'avais spoilé. Et alors que, par exemple, toi, Manon, tu l'as regardé de ton côté, avec Cortez qui dit « Mon Dieu, c'est quoi cette horreur ?»
Non, il avait pas dit horreur. Pour le coup, vraiment, c'était « Regarde le film ». Ouais. Et c'était pas spécialement positif ou négatif, honnêtement.
Je voulais en dire le moins possible parce que je suis d'accord aussi. Ouais. L'attente d'un film, peu importe le film que tu regardes, quand tu as une attente, tu auras forcément une expérience différente.
Non, là vraiment, c'était. Bah, en fait, je pense qu'il y a vraiment eu le cas où Cortés et moi, on a regardé le film en mode comme les mecs sont allés à Cannes à l'époque, on ne sait pas ce qu'on va voir, point. Et vous, il y avait ce passif-là. Greg, l'exception de la table qu'il a.
Ouais, moi, j'y suis rentré dedans. Au bout de 10 minutes, j'ai invité, ça va être marrant.
Non, effectivement, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Et oui, je pense que là, c'est un film qui mérite d'être un petit peu teasé, voire expliqué au préalable. Je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié si j'en avais eu connaissance avant.
Mais en fait, là, c'est pas des attentes. C'est pas genre, ouais, il est trop bien, ouais, il est trop drôle. C'est juste expliquer un peu le contexte. Et je pense qu'effectivement, il est nécessaire. En général, pour chaque épisode du podcast, avant de commencer le film, je regarde un peu le contexte qu'il y a avec, genre qui l'a fait, à quelle année, le contexte de sortie et tout. J'avoue que lui, je l'ai pas fait, je sais plus pourquoi. Ah oui, c'est ce que je voulais commencer, que j'ai dit vas-y, je le ferai après, et du coup, je l'ai fait trop tard parce que j'étais déjà rentré dedans, du coup. Et vraiment, je t'en waouh, c'est génial. Mais aussi parce que, en fait, je savais que la seule chose qu'on m'avait dit, c'est que c'était le même réal que Donnie Darko, donc je savais que ça allait être un peu bordélique, donc je me suis dit, bref, vas-y, on va voir ce que ça donne. Et c'est du Donnie Darko. Comique bizarre avec Dwayne Johnson mignon.
Là où je trouve que c'est. En fait, j'adore le fait que tu aies détesté ton expérience parce que le film est indigeste. Oui. Et pour le coup, c'est pas pour dire c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut regarder Southland Tales, qu'on aime ou on n'aime pas. Mais le film est indigeste. Pour le coup, c'est vraiment... en fait, moi, ce qui me fascine, c'est plus l'histoire qui est autour du film que l'objet cinéma en lui-même.
J'allais dire le côté un petit peu culte qui en ressort, comprends.
Oui. Revenir rapidement sur ce que tu viens de dire à Manon. C'est vrai que moi, techniquement, j'ai pas passé un bon moment, sauf certaines scènes qui m'ont fait mourir de rire. Genre, je suis désolé, les deux voitures qui qu'est-ce que c'est drôle.
S'encule.
Mais oui, mais avec les
A-L-D, à l'aide.
Oui, non, mais réellement. En fait, tu vois, j'ai pas passé un bon moment devant parce que j'ai jupité rien. Et à la fin, quand tout s'est connecté, j'ai fait... Et j'ai remis en perspective tout ce que je venais de voir, tout le temps que j'avais passé dans ce film, me dire, bon, en fait, si, c'était marrant.
Ouais,
mais c'est peut-être un petit côté maso en mode ok, j'ai invité, j'étais perdu, j'étais un peu frustré, énervé, mais en vrai c'est gaulerie, il m'a eu, le film m'a eu.
C'est très étrange parce que vraiment j'avais déchanté dès mon deuxième visionnage aussi, et en fait effectivement l'aspect dénonciateur, l'aspect satirique et tout ça, en fait j'étais en train de m'énerver parce que j'étais en train de me dire putain, qui a mis du Michael Bay dans mon David Lynch, en fait? Ou qui a mis du Lynch dans mon Michael Bay? Et après, en partant de cette phrase-là, je me suis dit, mais il y a un film satirique américain, grand spectacle, qui critique les États-Unis avec Dwayne Johnson, c'est No Pain No Gain.
C'est vrai.
Oh, qu'est-ce qu'il est bien.
C'est vrai. Excellent film, d'ailleurs.
Avec une main coupée, d'ailleurs, aussi, techniquement.
Ouais, bon, faut arrêter avec ça.
Mais le truc, c'est qu'en plus, il a ce côté un peu mélange de genre, c'est-à-dire qu'il est globalement drôle, mais il a de l'action, il a quelques moments un peu thriller, un peu intense, il a à côté humour noir, sauf que là, encore une fois, c'est plus digeste parce que pourquoi? Les personnages sont des caricatures, ils ont une fonction, un truc un peu monolithique, et après on y va parce qu'on a une histoire à raconter. On n'a pas 30 000 trucs non plus à dire.
Je viens de me rappeler d'une scène de No Pain No Gain où t'as Dwayne Johnson qui est dans une salle et il fait « Je suis entouré de plein d'objets sexuels chelous ». Et il est genre trop mal de ce qu'il est en train de faire. Et ça me mourrait.
Et tu vois, Dwayne Johnson, il a ce côté un peu enfantin ou un peu dépassé par les événements aussi.
J'adore ça.
Comme dans Southland Tales. Et l'humour est aussi lourd et vulgaire dans ces deux films.
No Pain No Gain est son meilleur rôle.
Le meilleur film de Michael Bay aussi.
Oui, probablement.
Et le meilleur film de tous les temps.
Et moi, ce qui me fait trop rire, c'est que depuis tout à l'heure dans la conversation, donc, évidemment, vu qu'il y a Lynch qui est décédé récemment cette année, toi qui as regardé Mulholland Drive avec en plus la même actrice, c'est vraiment le hasard. Toi qui as parlé de Nolan à un moment, et ce qui est hyper drôle, c'est que, pareil, un article que j'ai lu, parce que j'ai lu beaucoup d'articles pour préparer cet épisode, et qui disait, je sais plus c'est quel mec qui a dit ça, qui dit, en fait, Richard Kelly, c'est Christopher Nolan sans une boîte de prod qui lui met les brides qu'il faut pour que son film soit digeste.
C'est vrai,
oui.
C'est ça.
Et tu
regardes Nolan, quand Nolan prend le contrôle total sur son film, ça fait Tenet.
Et c'est pas bon.
Et Tenet, en vrai, il mérite un deuxième visionnage.
Pour revenir sur l'aspect Richard Kelly, on lui a pas mis de stop. Je pense que ça fait partie de ces films où justement, c'est un bon exemple concret de comment écrire un scénar digeste. Regardez Southland Tales, si, relevez tous les problèmes, et si vous faites l'inverse de Southland Tales, normalement vous avez un scénar qui se suit. Et c'est un peu pareil. Parfois, des producteurs, des problèmes de thunes ou des choses et d'autres, parfois les obstacles, ça a du bon.
J'ai une deuxième théorie pour comment savoir si un scénar tient la route et est digeste. Tu le fais jouer à des joueurs de JDR.
C'est pas fou.
Ça marche excessivement bien parce que soit ils vont tout casser et tu fais bon bah c'était nul, soit ils vont vraiment rentrer dedans et ça va être incroyable et en fait c'est que ça va le faire.
Bah moi je me serais cassé de la table dès que tu me parles de voiture qui baise, hein, là. C'est bon.
Alors non, moi, vraiment pas.
Moi tu me parles,
moi, je
de voiture qui baise, je viens.
Oui, c'est ça.
En fait moi là... je serais parti après toute l'explication au bout de 7
mecs,
minutes.
Quoi. Et moi j'aurais rigolé en voiture qui baise. Hein.
Voilà, ah, moi je serais revenu en voiture qui baise.
Je trouve vraiment que vous avez un humour très immature.
Ta
moi
grosse
je me sens
gueule,
très très.
Alors franchement c'est toi qui parles
pour le coup. Je pense qu'on m'aurait vendu le film par rapport à cette pub. Je pense que là, au contraire, c'est vraiment la réplique qui m'a attiré. Et vraiment, on m'aurait parlé de cette scène en premier. Je sais pas si.
Ah non, non, mais il faut vraiment pas parler de cette scène pour présenter ce film. Hein. Parce que surtout que c'est 30 secondes dans tout un film de 2h20.
Ça rend pas
home. Et Richard Kelly n'a fait que 3 longs métrages dans sa carrière. Donc, Donnie Darko en 2001. Southland Tales en 2006-2007 et en 2008, 2008 The 2009. Box avec Cameron Diaz qui est, je crois que ce film n'a pas eu un succès phénoménal, mais
j'en
bon
ai
ça
j'ai jamais entendu parler.
C'est ouais. Et bah je me souviens l'avoir vu il y a longtemps, j'étais jeune, plus jeune que maintenant en tout cas, et je me souviens que le film était plutôt chouette et je me dis c'est quand même marrant que il soit resté bloqué à ce point-là sur Southland Tales parce qu'après il a fait The Box qui est plutôt pas mal, que les gens ont apprécié a priori pas
en tout cas
plus que Southland Tales.
Et je suis en train de me renseigner, c'est le seul film où il a pas fait le scénario puisque c'est une histoire basée sur une nouvelle de Richard Matheson.
Ouais c'est ça.
Richard Matheson donc qui a écrit Je suis une légende.
Et pour le coup ouais je me dis tiens c'est marrant parce que vraiment le coup du Blu-ray là avec la version canoise où il a refait une réaction dessus c'est 2021 hein, ouais. L'info. Donc si tu te dis putain
15 ans entre les deux.
Ouais hein. Le mec 15 ans après il a toujours pas
ça fait 15 ans plus de 15 ans que l'a rien sorti aussi. Hein.
J'ai l'impression qu'il s'est jamais remis de Southland Tales.
Ouais.
Oui,
alors évidemment bon Southland Tales il y a plein d'autres choses à dire sur le scénario en lui-même. Il y a plein de refs à Philip K. Dick, il y a des refs à Lynch, il y a des refs à tout le monde. Etc.
À la Bible.
Il y a même tout un délire, je crois qu'il y a tout un délire de sous-lecture par rapport, en gros, à la religion prédominante. En gros, il y a tout un sous-texte là-dessus et qu'en gros, la vraie religion, c'est la religion catholique qui... évidemment, c'est satirique, hein, la manière dont il en parle, mais... voilà, c'est il y a beaucoup trop de choses dans ce film. Ça.
Aussi, si t'en as un petit peu rien à secouer des États-Unis de ce qui se passe, le film il passe un peu à côté, hein, parce qu'il est très intéressé dans son pays.
Ah bah oui.
Ce que je veux dire, c'est que effectivement, il y a plein de références à plein de trucs, et il y a plein de références à des choses qui se passent aux États-Unis qui sont un petit peu loin de nous. Par exemple, toi, le patriotisme, c'était quelque chose qui t'avait gêné, mais c'est tellement répandu. Pour moi, c'est tellement normal qu'un Américain soit patriotique. Et il y a aussi, par exemple, toutes les refs à des anciennes, à des anciens scandales américains. Par exemple, la fameuse Gorge Profonde 2, est-ce que vous l'aviez ?
Non.
Ah mais c'est le
Deep Throat.
Mais le Watergate, les gens.
C'est le Watergate.
Ah oui, je pensais que c'était évident pour tout le monde, là, pour le coup.
Non, voilà, quand je profonde, c'est pas parce que c'est une actrice de
cinéma.
C'est quoi
le Watergate?
Ouais,
alors, c'est un scandale des 70s, si je dis pas de bêtises,
dans lequel
c'est vraiment un truc extrêmement connu aux États-Unis.
Attends, est-ce que c'est le truc de JFK et ça...
Non, c'est Richard Nixon.
Non, c'est... En gros, où ils avaient mis les Russes sur écoute, en mode, on met un micro dans la salle, on vous dit pas, et ça avait fait un maxi scandale, pour te résumer le truc très grossièrement. Et en fait, oui, le film est... truffé de scandales américains qui reprennent. Et en fait, c'est pour ça que j'ai trouvé ça super lourd aussi, c'est que je suis là genre, oui, on a compris l'histoire des États-Unis, waouh, cool.
Et donc, pour le rapport à Gorge Profonde, c'était le nom de l'indic.
Oui.
Y a un film super qui s'appelle Les Hommes.
Putain, merde.
Avec Robert Redford.
Oui, oui, il est génial. Il est
Justin
génial.
Hoffman. Les Hommes du Président, il me semble.
Ah, mais j'ai entendu parler
celui-là. C'est Les Hommes du Président. Bah, en fait, si tu as vu la parodie de La Classe Américaine, donc Peter et Stephen, oui. C'est ces extraits de ce film-là.
Ouais, ouais, je sais. Mais effectivement, c'est vrai que moi, l'histoire des États-Unis, bah, ça m'en touche une, ça me bouge l'autre. Du coup, effectivement, j'ai pas vu toutes ces références. Du coup, bah, ça m'a pas dérangé.
Après, mais quand tu l'as, ouais. Peut-être Ignorance is Bliss, peut-être que si tu l'as pas, tu digères mieux le film.
C'est très probable.
Par exemple, est-ce que tu as vu Forrest Gump?
Oui, bien sûr.
Et ben, dans Forrest Gump, c'est lui qui résout le Watergate. Enfin, c'est lui qui voit les espions qui posent les micros.
D'accord. Ah ouais,
ouais.
Oui.
Bah, c'est une toute petite scène, hein, c'est un clin d'œil.
Mais tu vois, là, justement, c'est bizarrement, dans Forrest Gump, je trouve ça moins lourd, alors que c'est le but du film, tu vois. Genre,
oui, c'est un résumé de tous les États-Unis. Ouais.
Mais parce que, puis bon, le personnage est.
Et puis Forrest Gump est incroyable. Mais...
voilà. Je pense qu'il est désormais le temps de voter. Southland Tales, il s'est craché. Il s'est bien craché. Mais est-ce que aujourd'hui, en 2025, il mérite notre love? Grégoire, est-ce que tu sauves Southland Tales?
Quand je suis arrivé à la moitié du film, je me suis dit jamais je sauve ça. Quand j'ai fini le film, j'ai fait et en vrai, après toutes ces discussions, pardon, en vrai, moi je le sauve. Parce que c'est complètement con, c'est très drôle, il y a Dwayne Johnson qui est mignon, moi ça me plaît.
Galien, est-ce que tu sauves Southland Tales?
J'ai les mêmes arguments que Grégoire. Mais c'est à ça de passer pour un oui, ça va être un non.
Tu le sauves pas?
Je le sauve pas, mais vraiment à un cheveu, parce que j'ai quand même passé un bon moment, parce que c'est mon délire ce genre de conneries, mais bon.
Bah non.
Sans surprise, je ne le sauve pas, vos arguments n'ont pas réussi à changer mon expérience cinématographique.
Je comprends. Cortès?
Je ne le sauve pas, et moi je comprends totalement qu'il est bidé, il continuera de bider.
Eh bah, ça tombe bien qu'il y ait trois personnes qui ne le sauvent pas, parce que... il y avait de grandes chances que je le sauve. Et en même temps, toute cette discussion m'a fait un peu réfléchir. Mais je vais rester sur mon choix de cœur. Moi, je le sauve, ce film. Je l'aime d'amour pour l'entité et pour le fait que ça soit un grand échec. Et les grands échecs, j'aime bien ça. Bref, Southland Tales, il a mérité de se faire démolir à sa sortie. Donc, on lui fait un petit bisou d'adieu et on le termine à coup de pelle. Et dans ce podcast, on termine par deux recommandations. Grégoire, quelle est ta recommandation?
Alors moi, ma première recommandation, c'est un film qui est sorti dans les années 75-76 à peu près et qui est diffusé encore maintenant toutes les semaines dans un petit cinéma de quartier à Paris qui s'appelle le Studio Galland. Et donc ce fameux film, c'est le Rocky Horror Picture Show. Et ça tombe bien parce que nous faisons tous, pas nous-mêmes, In Rest In Pellicule, partie de la troupe des Time Slips qui nous produisons tous les samedis soirs au Studio Galland pour détourner ce film. Et il y a également tous les vendredis avec les Panic Babies un détournement du film également.
Et Manon, tu as une deuxième recommandation. Quelle est-elle?
Alors en fait, ouais, on va en parler le mois prochain. En fait, c'est un film qui fait une énorme promotion pour Decathlon au niveau des collants notamment, parce que c'est un vêtement de combat agile qui est très très pratique pour faire des flexions. Et voilà, c'est un gros film d'action un petit peu qui parle de vengeance. Il y a un blond dans le rôle principal qui chante... putain, il chante des trucs dans d'autres films. Enfin voilà, c'est un mec avec une grosse range. Je me souviens plus trop du titre, mais voilà, si quelqu'un le trouve, ce serait pas mal dans les commentaires pour la prochaine fois.
Merci à tous. Si l'épisode vous a plu, un petit like sur votre plateforme d'écoute favorite, ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on vous fait des bisous et à bientôt dans Reste une pellicule. Des
bisous, bisous, bisous.
Ciao. Et c'est le moment du petit quiz à la con de fin d'épisode. Et oui, comme notre cher Eric, je vous ai préparé un petit quiz qui sort tout droit de mon cerveau malade. Alors, ça s'appelle le jeu du boxeur Santaros.
Je vous explique les règles, je vous donne un énoncé. La réponse a forcément boxeur Santaros plus quelque chose dedans. Vous allez voir, c'est assez facile. Globalement, c'est à peu près toujours le même gimmick que j'ai fait.
Alain Chabat en sueur.
Donc, je vous donne un... Oh, on fera pas de comptage de points.
Flemme.
Je vous donne un exemple. Je suis les gouttes d'eau sur l'herbe tôt le matin ou une sorte de vin.
Boxeur Santa Rosée du matin ?
Exactement ! Oh,
je suis très fan de ce genre de conneries.
Voilà.
Oh, putain,
c'est génial.
Big brain.
Alors, moi, je suis nul à ce genre de truc. Oh.
J'adore ça, moi. Je suis très, très fan.
Alors, c'est marrant parce que les premiers que j'ai choisis, c'est pas forcément les plus simples. Mais vous avez compris le principe. Oh. Je suis une espèce d'oiseau avec un chant très mélodieux. Je suis...
Boxeur Santa Rossignol.
Bien joué ! Oui.
À gagner, ou encore Tess, il est choc barre.
Alors,
je sais que j'en fais des mauvais jeux de mots, mais alors là, ça fuse. En plus, ça fuse vite, c'est pas genre. Oh putain.
Mais... Oui, parce que c'est évident en fait.
Ah oui, mais c'est ça.
Je suis un style de musique très populaire grâce notamment au King Elvis.
Boxer Santa Rock'n'Roll.
Exactement.
Logique.
Ah, celui-là, il est vraiment plus dur. On va voir votre culture cinématographique.
Aucune.
Je suis une actrice franco-allemande du XXe siècle, connue notamment pour le rôle de Sissi Impératrice.
Boxeur Santa Romy Schneider.
Bien oui.
Vache.
Plus simple. Je suis un tournoi du Grand Chelem de tennis sur terre battue.
Boxeur Santa Roland Garros.
Et ça continue, c'est pas fini, on est qu'à la moitié.
Oh mon dieu. Aussi long que le film.
Je suis un jeu de cartes qui permet de prédire l'avenir.
Boxeur Santaros divinatoire.
Exactement.
Je l'attendais.
Ou le boxeur Santaro marseillais.
Ah oui, oui.
Je suis l'évolution d'un Pokémon haut en forme d'étoile de la première génération.
Non, je l'ai pas.
J'aime pas Pokémon.
Attends, Santa Rosalina.
Vas-y, on l'a pas.
Eh bien, c'est Boxeur sans Staros.
Ah, putain, oui.
Non, Rosalina, c'est dans Mario.
Qui, d'ailleurs, dans le doublage de la série Pokémon, on a l'impression qu'il gémit de plaisir quand il parle.
Ah oui. Et t'as la version féminine aussi.
Ah. Oui. Bref, je suis un gros monsieur habillé en rouge qui s'infiltre par votre cheminée. Je suis...
Santa Claus.
Boxeur Santa Claus.
Boxeur Santa Claus.
Oh la vache.
J'en ai encore. Je suis une plante aromatique qui sent bon et qu'on utilise en cuisine.
En cuisine.
En cuisine.
Parce que la plante
de la Santa Romarin.
Boxeur Santa Romarin.
Galère, ouais. Il est trop chaud.
C'est le meilleur, c'est le
meilleur. Attention, on va voir si vous avez bonne mémoire. Je suis un personnage de flic amnésique dans le film Southland Tales.
Santa Roland Taverneur.
Oui.
Oh, c'est méta, Sarah.
Comme le film. Wow, c'est
le meilleur.
Parfait.
C'est le meilleur.
Non, mais il faut envoyer ce podcast à Richard Kelly.
Allez, il en reste deux. Je suis un lieu de restauration où l'on cuit généralement du poulet au four.
Banter Santa Rotisserie.
Oui.
Ah,
et la dernière, je suis un lapin qui parle et qui joue à Picotti Picota.
Oh, Boxeur Santa Roger Rabbit.
Exactement, ça aurait pu être Roger Carrel, mais j'ai choisi Roger Rabbit. Voilà, incroyable. C'était.
Et ça se termine encore une fois sur Beat.
Ouais, ouais. Ça, c'est beau.
C'est
la bref, c'était le quiz à la con. Des bisous.
Des bisous.
Des bisous. Oh, des bisous final, il était sale.
Des bisous. Des bisous.
C'était incroyable.
Alors, princesse, on a bien dormi.